Vous êtes sur RTL.
RTL, bonsoir.
Avec Julien Cellier,
Isabelle Choquet et Cyprien Signy.
Allez, bienvenue à tous, RTL, bonsoir, c'est votre émission. Si vous voulez tout savoir et vous amuser, vous êtes au bon endroit. Vous êtes bien entouré, qui plus est. À mes côtés, Cyprien Signy, Isabelle Choquet, Peggy Broche, mais aussi Marc-Antoine Lebré, Alex Vizorek. Bonsoir tout le monde.
Bonsoir.
Dans 10 minutes, Marc-Antoine, vous imiterez qui pour le Breaking News?
Jeff Tuch. Très important.
Magnifique.
On va voir si on est heureux ou pas.
Un président donc, Jeff Tuch. Dans une demi-heure, Alex, votre visioconférence, le menu.
Eh bien peut-être qu'on est sur la même actu parce que les pays les plus heureux du monde, eh bien la liste elle est tombée.
Tricheur.
Il y a du plagiat. Je vous donne aussi les invités du soir, les rendez-vous imminents à 18h15, nos invités face à l'événement. Reconstitution imminente dans l'affaire de la disparition du petit Émile. Révélation aussi sur le passé trouble de son grand-père. Notre expert Thomas Proutot et la journaliste Xchel Delaporte vous expliqueront tout.
À 18h40, jackpot, le fisc a récupéré plus de 15 milliards d'euros chez les fraudeurs. Vous allez l'entendre, il y a des James Bond aux impôts, réseaux sociaux, intelligence artificielle et délation. Un avocat fiscaliste nous dévoile leur méthode.
Et puis après 19h, la deuxième heure d'RTL Bonsoir, Kali viendra chanter en live dans ce studio, 20 ans après son album culte, L'Amour Parfait. Il reprend ses tubes en duo avec toutes les pointures de la scène française.
On va aussi passer en cuisine, on va jouer également et notamment avant 20h avec le grand quiz de RTL Bonsoir. À gagner ce soir, écoutez bien parce que c'est pour vous. Un week-end pour 4 au Parc Astérix. Avant toute chose, le journal, 10 minutes pour tout comprendre.
RTL, bonsoir.
Et à la une, Isabelle.
On le disait, une reconstitution la semaine prochaine dans l'enquête sur la disparition d'Émile au Auvernais, c'est une information RTL. Le RN loin devant aux européennes, une percée à gauche de Raphaël Glucksmann, résultat de notre sondage Harris RTL M6 Challenge. Et puis, les projets de voitures des Français, figurez-vous que le diesel n'est pas mort.
Tendance météo demain, Peggy.
Avec quelques averses orageuses dans l'Est, un temps sec mais nuageux près de la Manche et beau ailleurs.
Le journal, Julien Cellier, Isabelle Choquet.
C'est RTL qui vous l'a révélé. Une reconstitution va avoir lieu dans l'enquête sur la disparition du petit Émile.
Le petit garçon de 2 ans s'est volatilisé en juillet dernier alors qu'il était sous la garde de ses grands-parents. Bonsoir Maxime Lévy.
Bonsoir.
8 mois après, tous les habitants vont être convoqués la semaine prochaine au Auvernais.
Oui, la petite trentaine d'habitants du hameau, les vacanciers qui s'y trouvaient l'été dernier, mais aussi les grands-parents et les très jeunes oncles et tantes d'Émile présents dans la maison familiale. Tous devront revenir la semaine prochaine au Auvernais pour ce que l'on appelle une mise en situation. On ne connaît pas encore la date exacte, mais le but est simple. Depuis le 8 juillet dernier, ses habitants et la famille d'Émile ont été auditionnés à de multiples reprises. Il s'agit donc de voir, sur le terrain, si les faits et gestes qu'ils ont décrits au moment de la disparition d'Émile sont crédibles, si tout mis bout à bout est réaliste en termes d'horaire, de chronologie, pour peut-être déceler une faille, un indice permettant d'en savoir plus sur la disparition du petit garçon.
Merci Maxime Lévy du service police-justice d'RTL. Et par ailleurs, on découvre que le grand-père d'Émile est cité comme témoin assisté dans une vieille affaire de maltraitance et de violence sexuelle sur des enfants dans un pensionnat catholique du Pas-de-Calais, mais aucun lien avec la disparition de son petit-fils.
Dans quelques minutes, on va donc se plonger dans cette mystérieuse affaire Émile, la reconstitution, les pistes aujourd'hui, le passé trouble du grand-père, vous saurez tout grâce à notre expert Thomas Proutot et à notre invité Xchel Delaporte. 18h03, à 3 mois des européennes, le RN creuse l'écart.
C'est ce qui ressort de notre sondage Harris pour RTL M6 et Challenge. Jordan Bardella est crédité de 30% d'intention de vote en hausse de 2 points, loin devant la liste macroniste menée par Valérie Ayer à 18%. À gauche, Raphaël Glucksmann fait une percée à 13%, Julien Fautra.
Oui, la meilleure entrée en campagne, les meilleures entrées en campagne sont signées Jordan Bardella et Raphaël Glucksmann, Rassemblement National et Parti Socialiste, plus 2 points par rapport au sondage de janvier. Jordan Bardella effectivement nettement en tête, 12 points d'avance sur le second, la liste macroniste. Jamais le RN n'avait été aussi haut pour ce type d'élection, porté par les thématiques du moment. L'immigration, c'est la deuxième motivation de vote pour ces européennes. Le second élément, c'est la dynamique Glucksmann, tête de liste PS Place Publique. Il est à 13% d'intention de vote. Il était à 11% en janvier. Résultat, eh bien le PS n'a plus que 5 points d'écart avec la liste soutenue par Emmanuel Macron. Des électeurs de centre-gauche, un temps macroniste, désormais attiré par Glucksmann. Secondo, une réorganisation à gauche, les listes écologistes, France Insoumise, insoumise communiste sont loin derrière. Je vous rappelle le score des Verts en 2019 pour les dernières européennes, 13,5%, 7% d'intention de vote seulement aujourd'hui, c'est moitié moins.
Merci Julien Fautra du service politique d'RTL.
L'hommage national à l'amiral Philippe de Gaulle a eu lieu ce matin, c'était aux Invalides.
Un lieu qui était le sien puisqu'il y résidait depuis 2 ans. Le fils du général de Gaulle est décédé la semaine dernière, il avait 102 ans. C'est surtout le marin qui a été célébré ce matin. Son cercueil est entré au son d'un sifflet de Bosco, celui qui est utilisé pour honorer l'autorité qui monte à bord d'un bateau. Cérémonie présidée par Emmanuel Macron.
Comme il est dur d'être de Gaulle après de Gaulle. D'en avoir l'allure, la voix, les gestes, et de ne pas être lui. Dans les yeux de Philippe de Gaulle, s'était jouée l'histoire du siècle. Il faut agir au-delà de soi et travailler pour plus grand que soi. Là étaient ses mots, sans jamais attendre récompense ni honneur. Car ainsi va la vie quand on s'appelle de Gaulle, quand on se sent de France. On est, on vit, on sert, on meurt.
Emmanuel Macron qui présidait donc l'hommage à l'amiral Philippe de Gaulle ce matin dans la cour d'honneur des Invalides.
Allez, on va monter en voiture maintenant parce que le diesel n'a pas dit son dernier mot.
Non, c'est ce que montre le dernier baromètre Argus sur les projets automobiles des Français. L'électrique marque le pas, mais le diesel, lui, affiche 30% d'intention d'achat en occasion et 10% dans le neuf, Christophe Bourou.
Oui, c'est 4% d'intention d'achat en un an de plus, alors que dans le même temps, l'électrique jugé trop cher perd 5 points et c'est justement l'argument financier qui est mis en avant par les automobilistes. Là, il n'y a pas photo. En effet, d'occasion, par exemple, une voiture diesel coûte en moyenne aujourd'hui 13 000 euros. C'est 4 000 euros de moins qu'une essence et 12 000 de moins qu'une électrique.
Ah oui, quand même.
Oui, donc l'écart est vraiment très conséquent avec un autre avantage. Le prix à la pompe, depuis un mois, les prix baissent. 1,77 € le litre, soit 7 centimes de moins que le sans-plomb 95. Donc pour ceux qui roulent beaucoup, ce carburant reste donc intouchable avec une autonomie qui dépasse les 1000 km. Pour toutes ces raisons, le diesel garde un intérêt et il est fort à parier que cette tendance va s'accentuer après les dernières annonces du gouvernement de ralentir le calendrier sur la mise en place des fameuses ZFE, les zones à faible émission, avec, on le rappelle, un sursis pour les véhicules diesel de plus de 14 ans qui auront toujours le droit de circuler au 1er janvier prochain, Marseille, Rouen et Strasbourg.
Merci Christophe Bourou, spécialiste auto sur RTL. 1000 salariés des Galeries Lafayette attendent d'être fixés sur leur sort. Le tribunal de commerce de Bordeaux doit statuer aujourd'hui sur le plan de sauvegarde de Michel Oyon, qui possède 26 magasins en province. Son groupe est criblé de dettes. Et puis notez que la maison mère des marques pour enfants du pareil au même et sergent-major a été placée en redressement judiciaire la semaine dernière. Le groupe ne se remet pas de la pandémie de Covid.
La suite du journal, c'est avec...
Les 70 ans de Martine, héroïne de la littérature jeunesse.
On vous rappelle aussi qu'on va se plonger dans l'affaire Émile avec notre expert et une journaliste spécialisée dans quelques minutes après les derniers éléments aujourd'hui. Reconstitution imminente, on l'évoquait, puis révélation sur le passé trouble du grand-père. Moment plus léger aussi à venir, avec Marc-Antoine Lebray, notre imitateur, qui nous promet 2 présidents pour le prix d'un dans quelques instants. Emmanuel Macron et
Jeff Tuch.
Et Jeff Tuch, voilà. Et à 18h30, Alex Vizorek, notre Jeff Tuch à nous. À tout de suite.
RTL, bonsoir. Vélo.
RTL, bonsoir.
Julien Cellier, Isabelle Choquet.
18h09, RTL, bonsoir. Votre journal qui se poursuit. Elle a 70 ans, mais c'est une éternelle jeune fille. Et Martine, oui, fête son anniversaire aujourd'hui.
Oui, la série de livres jeunesse de Marcel Marlier a été créée en effet en mars 1954. Depuis, 60 albums ont été publiés chez Casterman, 120 millions d'exemplaires vendus en langue française et 45 millions en langues étrangères. Martine à la plage, Martine à la ferme, Martine au cirque.
Ça, à la campagne.
C'était les
à
miens.
Montagne.
Ah, vous aviez à la campagne. Bon, désormais, il y a aussi Martine à Paris qui sort aujourd'hui et une expo lui est consacrée à la galerie Gallimard. Et ça se confirme, hein, Martine est éternelle.
Ça me rappelle mon enfance, parce que je suis quasiment née avec elle. Elle est vivante, elle est sympathique, elle est souriante. Que des bonnes choses dans cette petite fille.
Est-ce qu'il y a une histoire qui vous reste en tête?
Je dirais Martine Petitrat de l'opéra, parce que je faisais de la danse classique aussi quand j'étais petite. Et Martine m'a marquée à ce moment-là, parce que je voulais moi aussi devenir danseuse étoile. On a toujours une image de cette petite Martine qui est en train de faire du vélo, qui fait du ski, qui apprend à nager. Et c'est c'est ces images-là qu'on garde de toute notre enfance.
Je trouve que les dessins sont toujours aussi beaux. On a l'impression qu'elles vivent sous nos propres yeux.
Des fans de Martine à la Galerie Gallimard Expo jusqu'au 11 avril. Ils répondaient à Thomas Bonnet pour RTL. On termine avec un cocorico. Le prix Abel de mathématiques vient d'être attribué au français Michel Talagran. C'est un spécialiste des probabilités et de l'analyse fonctionnelle. Ne me demandez pas ce que c'est. Les probabilités, ça va. Il est le cinquième français à récompenser depuis la création du prix en 2003. Et selon lui, j'aime beaucoup cette phrase, les mathématiques donnent des ailes.
Ouais, c'est ce qu'on va dire à l'adolescent de Cyprien.
Ouais.
Les mathématiques.
Ah, mais il a eu 15,5 à son dernier.
On est rassurés.
Bravo Gaspard.
Bravo Gaspard.
Allez, d'autres chiffres. Maintenant, les températures pour demain, s'il vous plaît. Elles étaient anormalement hautes aujourd'hui. Ce sera la même chose dans les 24 prochaines heures.
Pareil demain, exactement. Toujours de la douceur. Alors, même si on se couvre un peu sur le nord le matin, ça ira de 5 à Rennes jusqu'à 13 à Perpignan, 7 à Brest, 8 à Lille, 10 à Paris et Marseille et 12 degrés à Toulouse. Les maximales de 12 au Havre jusqu'à 24 degrés à Bordeaux, 15 à Cherbourg, 17 à Metz, 18 à Paris comme à Besançon, 19 à Orléans et Rennes, 20 degrés à Bourges et La Rochelle, 21 à Marseille, 22 à Limoges comme à Montélimar, 23 à Toulouse et Perpignan. Donc encore de la douceur, alors sous un ciel plus nuancé parce qu'on a des averses orageuses qui vont traverser le pays cette nuit. On va les retrouver demain matin entre l'Alsace-Lorraine en passant par la Bourgogne-Franche-Comté jusqu'au nord du Massif central. Elles vont se décaler dans l'après-midi essentiellement entre l'Auvergne-Rhône-Alpes avec quelques orages sur les reliefs. Et puis, on a aussi une zone plus mitigée sur les bords de Manche où le ciel sera bien couvert le matin. On aura quelques timides éclaircies dans l'après-midi. Partout ailleurs, ce sera du soleil après dissipation des grisailles qui seront nombreuses dans le sud-ouest. Et puis, un petit coup d'orage, un petit coup de tonnerre possible également sur les Pyrénées en fin de journée.
Merci beaucoup Peggy. Allez, le journal décalé, c'est maintenant avec un rédacteur en chef, comment dire, aux multiples voix. Marc-Antoine Lebray, votre imitateur dévoué parmi nous. C'est parti pour Lebray. Gabriel Attal, monsieur le Premier ministre, ça s'est arrangé avec Rachida Dati et ses SMS incendiaires?
Bonsoir. Oui, tout est arrangé, on a fait la paix. D'ailleurs, si elle nous écoute, bisous. Ah bah tiens, vraiment, elle m'a répondu, bisous FDP. Vous voyez, tout est arrangé. Hein.
Monsieur le Président, l'Élysée a démenti une rumeur russe disant que 2000 soldats français vont être envoyés en Ukraine.
Mes chers concitoyens, français et futurs concitoyens russes, suite à ces rumeurs, tous les membres du gouvernement sont unis et solidaires face aux manipulations. Ah, un petit message d'encouragement de Rachida Dati. Alors elle dit, t'auras jamais les couilles d'y aller ? Petite teub. Merci, Rachida. Bref, nous ne nous laisserons pas duper par les tentatives de déstabilisation. Poutine, il te fume.
MDR ?
LOL ? XPTDR ? Emoji aubergine. Allez, je vous laisse. Je vais à mon entraînement de boxe et surtout apprendre à parler russe. Ouais. Juste au cas où.
Au cas où, effectivement. Gérald Darmanin, monsieur le ministre de l'Intérieur, l'opération anti-drogue à Marseille est raillée pour son maigre bilan de 4 armes, 9 kilos de cannabis, 339 grammes de cocaïne et 400 000 euros saisis.
Écoutez, monsieur Cellier, il ne faut pas voir le verre à moitié vide. 9 kilos de cannabis et 339 grammes de cocaïne, c'est vrai que c'est pas énorme si on se place d'un point de vue de Jean-Claude Van Damme. C'est énorme si on se place d'un point de vue d'un ministre de l'Intérieur qui veut pas passer pour un con. Rachida qui m'a dit, t'inquiète pas, t'as pas eu besoin de ça pour passer pour un con.
Sympa.
C'est bien d'avoir une collègue rassurante. Bref, monsieur Cellier, on a aussi saisi 4 armes.
Ouais.
Ah, elle me dit, dis-leur que c'est 4 coupongles. C'est bien d'avoir une collègue qui a de l'humour. Et on a saisi 400 000 euros. Oh, qu'est-ce qu'elle veut encore? Alors, c'est la BAC de Marseille pour dire qu'ils ont saisi un cinquième coupongle.
Merci, monsieur Darmanin. Pour concurrencer les JO de Paris, la Russie va lancer les Jeux de l'amitié. Nelson Montfort, vous nous expliquez le principe?
Mon cher Cyprien. Alors, pour ces Jeux de l'amitié, on pourrait avoir comme participants la Russie, la Chine ou encore la Corée du Nord. En gros, les Jeux de l'amitié sont faits pour ceux qui n'ont plus beaucoup d'amis. On ne serait donc pas étonné de voir Gérard Depardieu ou Pierre Palmade décrocher une médaille. Alors, à noter que lors de ces Jeux, il n'y aura d'ailleurs aucun contrôle antidopage, ce qui laisse encore plus de chance à Pierre Palmade que Cory Cocaïne. Dernière info, vous l'avez, Cyprien. Alors, dernière info, outre les sports présents au JO, il y aura des épreuves atypiques comme paddle, rock acrobatique, MMA, échecs. J'ai un message, pardon, de Rachida Dati qui me dit « Et s'il y a une épreuve de SMS, je suis hoche
!» Selon un classement de l'ONU, la Finlande est le pays le plus heureux au monde et la France est 27e.
Salut, c'est Jeff Tuch. Heureux ! Comment tu veux qu'on soit heureux, Isor ? On sort du Covid et on se tape la réforme des retraites, la guerre en Ukraine, l'antisémitisme, l'islamophobie, le racisme, les kiwis qui font du paddle, du pot, le terrorisme, l'homophobie, Israël-Palestine, l'inflation, les Belges qui envahissent nos émissions,
terrible.
Le réchauffement climatique, les féminicides, les agressions sexuelles, les agriculteurs qui se révoltent, les journalistes qui deviennent schizophrènes car ils font de l'escalade ou des imitations. Ils savent plus s'ils sont François Cluzet ou Spider-Man. Qui sait, c'est Rachida Dati qui me dit, et t'as oublié les gros cons du gouvernement. Merci, Rachida. Ma parole, qu'avec tout ça, le seul moyen d'être heureux, c'est de se droguer. Ah bah non, même ça, on peut pas, à cause de l'opération anti-drogue du gouvernement. Tu vois, je te l'avais dit, oui. Merci encore, Rachida. Purée, on va finir bon dernier du classement avec leur connerie.
Ah, on adore Jeff Tuch. Merci beaucoup, Marc-Antoine Lebray. Le Breaking News, l'autre journal après le vrai journal, c'est tous les soirs aux alentours de 18h15 sur RTL.
Julien Cellier, Isabelle Choquet et Cyprien Signy. RTL, bonsoir.
Et la suite, c'est maintenant. Nous allons accueillir nos invités face à l'événement. 9 mois après la disparition du petit Émile, 2 ans et demi, RTL vous le révèle, une reconstitution est désormais imminente.
Et par ailleurs, le passé trouble du grand-père refait surface, mêlé à des affaires de violence.
Notre expert Thomas Proto et la journaliste Xchel Delaporte nous plongent dans ce mystérieux dossier. On va tout vous expliquer.
RTL, bonsoir. Oui. RTL, bonsoir. Julien Cellier, Isabelle Choquet et Cyprien Signy.
Allez, RTL, bonsoir. On va se plonger maintenant dans la mystérieuse affaire Émile. Le petit garçon, vous le savez, est porté disparu depuis 9 mois. RTL vous l'a révélé aujourd'hui, une reconstitution en quelque sorte est donc prévue la semaine prochaine dans le hameau, le fameux hameau du Haut-Vernay. Et puis autre info des dernières heures, et là aussi on va s'y plonger, le passé trouble du grand-père d'Émile qui refait surface. On va en discuter ce soir avec le chef de notre service police-justice. Bonsoir Thomas Proutot.
Bonsoir.
Et on accueille aussi la journaliste Xchel Delaporte qui a publié le livre Les enfants martyrs de Riaumont aux éditions du Rouergue. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez enquêté notamment sur le pensionnat catholique de Riaumont où les agissements du grand-père dans les années 90 interpellent. On va y revenir ensemble. Avant toute chose, Thomas, cette reconstitution, même si ce n'est pas, je crois, le terme exact, est imminente. Racontez-nous, ça va se dérouler quand ? Ça va se dérouler avec qui ?
Oui, pour être très précis, d'un point de vue judiciaire, il s'agit d'une mise en situation. La reconstitution, c'est lorsqu'un suspect a été mis en examen. Le principe n'est pas très éloigné. Il s'agit de reconstituer la scène au plus près de ce qui s'est passé. Alors, on ne connaît pas encore le jour précis, mais tous les témoins qui étaient sur les lieux l'après-midi de la disparition d'Émile sont convoqués. À la manœuvre, les deux juges d'instruction d'Aix-en-Provence qui dirigent les investigations, c'est eux qui ont décidé de cet acte essentiel dans l'enquête.
Et alors, est-ce que la famille d'Émile sera présente ?
Oui, en premier lieu, le grand-père et la grand-mère maternelle d'Émile. C'est à proximité de leur maison du Haut-Vernay. Vous le savez que Émile a échappé à leur vigilance après sa sieste. Ouais. C'est eux qui en avaient la garde. Ouais. Également convoqués certains des oncles et tantes d'Émile qui étaient présents. On parle des enfants, des grands-parents qu'ils ont eu lorsqu'il était très jeune. Hein. Donc beaucoup sont mineurs, mais la plupart seront là. Il y avait en tout, on le rappelle, une dizaine de membres de la famille dans la maison.
Et on va remonter le temps en quelque sorte. Hein. Tous les habitants vont devoir se placer dans cette reconstitution à l'endroit où ils étaient d'après leur alibi.
Oui, ils vont reprendre leur place, leur trajet, cela va être confronté à leurs auditions. Si un témoin dit avoir dû, disons, un autre témoin à 17h12, par exemple, on rappelle que le petit garçon a disparu aux alentours de 17h15, on va vérifier que l'angle de vision le permettait, qu'il n'y a pas de contradiction entre la configuration des lieux et ses déclarations, en gros, que ça colle.
Ils espèrent quoi ? Avec cette reconstitution, les juges d'instruction.
Eh bien, trouver ce qu'on n'a pas trouvé jusqu'ici, l'indice caché, l'incohérence manifeste dans la déclaration de l'un ou l'autre témoin, quelque chose qui donnerait une nouvelle impulsion à l'enquête.
Donc, l'idée, c'est de trouver une piste ou peut-être d'en vérifier une, mais alors, on n'est pas au courant.
Voilà, les deux, sachant que jusqu'ici, c'est ce que vous disiez, magistrats et enquêteurs ont gardé un blackout total sur leurs éventuelles suspicions, ce qui est bien normal.
Mais alors, est-ce qu'ils ont des pistes, les juges, quand même ?
Alors, justement, si c'est le cas, on ne le sait pas. pas. Ce qu'on a appris récemment, c'est que la piste de deux ouvriers bulgares qui travaillaient à proximité, voilà, qui ont coulé une dalle de béton dans une maison à quelques centaines de mètres dans les jours qui ont suivi la disparition, mais cette piste a été vérifiée et quasiment totalement écartée, la dalle sondée, détruite. En revanche, tous les autres acteurs restent des suspects potentiels, on a bien dit potentiel, aussi bien ceux qui étaient là, ceux qui sont passés par la route et la famille, bien sûr, du petit garçon.
Cette enquête, Thomas, c'est combien d'auditions, c'est combien de vérifications ?
Des dizaines et des dizaines d'auditions, des centaines de vérifications. Il y a eu notamment, vous le savez, 36 perquisitions en novembre au Auvernais et partout en France, avec notamment des téléphones, des ordinateurs saisis, soit des téraoctets de données toujours en cours d'exploitation.
Et il y a combien de gendarmes qui enquêtent sur le dossier aujourd'hui ?
Eh bien, le directeur général de la Gendarmerie nationale l'a précisé sur RTL la semaine dernière. Ils sont 20 enquêteurs à plein temps de la section de recherche de Marseille.
Alors, venons-en, Thomas, à l'autre événement marquant des dernières heures. Le passé trouble du grand-père d'Émile refait surface. Le canard enchaîné a révélé qu'il était cité dans une affaire de violence et de viol. Ça se passe dans un pensionnat catholique du Pas-de-Calais dans les années 90, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Il est cité notamment dans une enquête qui a été ouverte pour violence, agression sexuelle et viol. Il n'y a pas que lui, loin de là. Il y a tous les encadrants, les prêtres notamment, qui étaient présents dans cette institution catholique traditionnaliste à l'époque. Et on va le redire, on le précise déjà, il y a eu des investigations, il a été entendu, il n'est que témoin assisté dans cette affaire. C'est-à-dire que la justice ne retient rien contre lui à ce stade, et si ça reste comme ça, il aura un non-lieu.
Alors parlons-en justement de ce pensionnat catholique de Riaumont, XL de la Porte. Vous avez donc enquêté longuement sur cette communauté traditionnaliste du Pas-de-Calais. Vous pouvez nous présenter cet endroit, ce pensionnat déjà ?
Oui, alors c'est un pensionnat catholique intégriste, comme ça a été dit, qui a ouvert ses portes en 1960 pour mettre dans le droit chemin des enfants des mines égarés et vivant dans des familles considérées comme dysfonctionnelles. Donc le point de départ, il est là, et c'est un pensionnat qui se situe en haut d'une colline à Liévin, entouré de bois, et qui a été pratiquement construit par les enfants eux-mêmes, en fait. Ça ressemble à une sorte de cité médiévale, en fait, donc faite avec des pierres. C'est assez particulier comme endroit.
Voilà. Avec des méthodes, dur, visiblement.
Oui, ça a toujours été le credo de ce lieu-là. Hein. Les enfants ont toujours été frappés allègrement. Ça faisait partie de l'éducation. En fait, c'était une éducation par la violence. Et en fait, ça n'a pas beaucoup changé à partir de 1989, puisque ils ont créé une école privée hors contrat après avoir perdu l'agrément pour recevoir des enfants qui étaient placés par la DAS ou par des juges.
Justement, il y faisait quoi, le grand-père d'Émile, à l'époque, dans cette communauté ?
Alors, le grand-père d'Émile, en fait, il est rentré dans cette communauté parce qu'il voulait devenir prêtre. Donc il était kiné, il avait une très bonne situation et de lui-même, il a voulu vers l'âge de 26 ans rentrer dans cette communauté. Donc il est rentré d'abord comme chef scout.
Et vous, au cours de votre enquête, vous avez entendu parler de lui ? Vous avez recueilli des témoignages qui le mentionnent ?
Absolument. Son nom est revenu à plusieurs reprises parce qu'il faisait partie de ceux qui cognaient le plus fort. Il était très violent, il appliquait les méthodes qui étaient celles du pensionnat, hein. C'était pas que lui, mais il le faisait avec zèle, oui, il frappait les enfants et aussi il était décrit comme quelqu'un de très charismatique et de très intelligent, qui savait pourquoi il était là et qui était persuadé de faire les choses correctement. Mais oui, en effet, quelqu'un de très violent, qui était, je pense, assez persuadé que la violence pouvait être une méthode éducative. Ouais.
Thomas, cette éducation à la dure, est-ce qu'on sait si Émile a été éduqué ainsi par son grand-père ?
Alors, il s'est défendu en général d'une telle attitude dans la seule interview qu'il a donnée à Famille Chrétienne cet automne. « Je passe pour un dominateur qui terrorise tout le monde. Tout cela est faux, mais je m'en moque. » Voilà, c'est ce qu'il a dit. On ne connaît pas, on le souligne, le détail de ses rapports avec son petit-fils de 2 ans et demi. En revanche, ce qu'on sait, c'est que pour ses enfants, il a choisi une éducation empreinte de religion, très traditionnaliste, école à la maison jusqu'à l'université. Mais encore une fois, on n'a aucune indication, aucun indice qu'il y a pu des violences exercées sur ses propres enfants.
XL de la Porte, le grand-père d'Émile est aussi accusé d'un viol ?
Oui, tout à fait. Il a été accusé par un ancien pensionnaire qui a déposé plainte contre lui en 2013.
Et cette plainte, elle en est où ?
Elle est toujours en cours d'instruction. Il est cité comme témoin assisté. Moi, je ne peux pas vous en dire plus.
car le plaignant souhaite ne pas être médiatisé du tout, et donc il pense que voilà, cette plainte existe, il le fait savoir, mais il ne veut pas du tout pouvoir l'identifier, donc il n'y a aucun détail qui sont donnés par Michel Delaporte, notamment qui, je crois, le connaît, mais qui respecte son vœu de confidentialité.
Merci beaucoup Thomas Proutot. Merci Michel Delaporte, auteur des Enfants martyrs de Riomont aux éditions du Rouergue. Merci d'avoir été nos invités face à l'événement ce soir après ces nouveaux éléments autour de l'affaire Émile, parce qu'on précise que cette affaire Riomont n'est en rien liée à la disparition d'Émile et qu'aucun élément n'implique le grand-père dans cette disparition. Merci d'avoir été tous les deux nos invités dans RTL Bonsoir.
Merci.
Merci.
RTL Bonsoir.
Et vous ne bougez pas parce que RTL Bonsoir continue avec votre RTL Inside. On reprend le cartable.
Oui, RTL se penche sur les classements des meilleurs lycées de France. On les voit fleurir en ce moment dans les magazines. Eh bien, on vous emmène à Colombes, dans un lycée absolument génial, en tête sur un critère qui n'apparaît pas quand on ouvre les hebdos.
Et qui devrait apparaître. On va tout vous expliquer. La visoconférence est avec vous, Alex Vizorek. Là aussi, c'est imminent. Vous allez rire de qui, de quoi ?
Je sors de la meilleure école du rire. La formation belge.
Van.
Je vais parler des préservatifs qu'on va distribuer aux athlètes pendant les JO.
Ah bon, on va distribuer des sympa. Préservatifs aux athlètes.
Vous avez écouté la visioconférence tout à l'heure. J'en saurai plus.
Je vais rester.
Il y a l'info.
C'est dans deux minutes. À tout de suite.
RTL Bonsoir jusqu'à 20h. RTL s'informer ensemble.
RTL Bonsoir.
Julien Cellier, Isabelle Choquet.
Avant de retourner au lycée, dans RTL Inside, avant Alex Vizorek, les trois infos à retenir ce soir, s'il vous plaît, Isabelle.
Le plan de sauvegarde des 26 magasins Galeries Lafayette détenus par Michel Oyon va être validé par le tribunal de commerce de Bordeaux. C'est ce que dit la CFDT. 1000 emplois sont en jeu. Une reconstitution la semaine prochaine dans l'enquête sur la disparition du petit Émile. Tous les habitants du Haut-Vernay vont être convoqués, information RTL. Et puis, trois jeunes mis en examen et incarcérés après la cyberattaque sur France Travail. Et selon les premiers éléments de l'enquête, ils n'ont eu aucun mal à pirater le site Récit Complet dans le journal de 19h.
La tendance météo, s'il vous plaît, Peggy, pour demain.
Avec quelques averses orageuses sur l'est du pays, un temps bien nuageux sur les bords de Manche et beau ailleurs après dissipation des grisailles matinales.
RTL Inside.
Et ce soir, eh bien, on retourne, mesdames, messieurs, au lycée.
Vous voyez passer en ce moment les classements des meilleurs établissements. La plupart se basent exclusivement sur les taux de réussite au bac, mais certains intègrent aussi la valeur ajoutée.
La valeur
sur ce critère, le lycée polyvalent Anatole France de Colombes est au top. Bonsoir Narissa et Mani.
Bonsoir à tous.
Alors d'abord, une petite précision, c'est quoi la valeur ajoutée d'un collège ou d'un lycée ?
Eh bien, c'est la capacité d'un établissement à accompagner ses élèves vers la réussite. Par exemple, pour le lycée Anatole France, on part du profil des élèves à l'entrée en seconde, leur âge, leur niveau scolaire, leur origine sociale. La plupart sont issus de milieux défavorisés. Avec ces informations, le ministère de l'Éducation estime le taux de réussite au bac pro pour ce lycée. C'est 70% de réussite estimée. Et puis, trois ans plus tard, on compare avec le taux de réussite réel aux examens. Et là, c'est 90%. Oui, vous voyez la différence. Ça veut dire que les élèves ont progressé grâce à leur lycée.
Oui, je suis bon en maths.
Bon en maths.
Pourtant, je n'étais pas au lycée à Colombes.
Et pas plus 20%.
Là, on parle d'un lycée donc dans l'Ouest parisien, qui accueille de la région parisienne, qui accueille des élèves de la 3e au BTS. Concrètement, expliquez-nous, on l'a créé comment cette valeur ajoutée ?
Eh bien, ça passe déjà par des classes aux petits effectifs, 24 élèves, un travail en demi-groupe et des heures de soutien quasi à la demande. C'est ce qui a aidé ces jeunes filles du lycée à accéder au BTS.
Je pensais pas y arriver. J'avais pas de confiance en moi. Les profs encouragent beaucoup. Ils nous prennent à part vraiment pour discuter de notre projet.
Pendant les vacances scolaires, si on n'arrive pas, on leur écrit, on leur envoie un mail. Ils nous sont toujours là à répondre tout de suite d'un coup. Même le week-end, c'est vraiment un bon lycée.
Ah oui, il y a beaucoup de suivi. Donc, hein. Il y a aussi toute une stratégie pour éviter le décrochage scolaire.
Oui, le lycée a mis en place un groupe de prévention de décrochage scolaire. Profs, CPE ou encore psychologues proposent un suivi personnalisé pour chaque élève qui risque d'abandonner l'école, comme l'explique Ferhat Saïchi, enseignant.
On met en place un dispositif qui leur permette de revoir soit une réorientation, soit à travers des stages d'insertion ou des stages d'immersion qui leur permettent un petit peu de découvrir un petit peu le métier.
D'ailleurs, aucune période de stage n'est collée aux vacances scolaires pour que les élèves reviennent en cours, effacent le bilan, ça limite le décrochage.
Et la valeur ajoutée, Nérissa, ça passe même par la cantine.
Oui, entièrement rénovée il y a 2 ans avec une nouvelle carte imaginée par le chef cuistot de la cantine.
On fait plus de maisons, on fait plus de frais, donc ça fait un self d'adulte en fait, et puis un self dit école. Le repas du midi est toujours important parce que c'est le repas que vous attendez le plus dans la journée. Donc si vous mangez bien, automatiquement vous avez plus de réussite.
Une bonne cantine améliore le climat scolaire, évite aux élèves de se répandre dans les quartiers alentours sur la pause déjeuner et les dissuade de sécher les cours l'après-midi.
Donc vive le lycée Anatole France de Coulon. En gros, c'est le meilleur lycée de France selon le critère de la valeur ajoutée, c'est ça ?
Alors, pas le meilleur lycée de France, mais c'est
un des meilleurs.
Ça fait partie des meilleurs. En tout cas, il y a une grosse valeur ajoutée.
Non, mais c'est ça que le décrochage scolaire n'est pas une fatalité.
Exactement. Non, mais c'est intéressant parce que quand on ouvre, c'est vrai que c'est la période dans les magazines où on a les classements des meilleurs lycées de France. Bon, en général, c'est pas un critère qui est pris en compte. On prend surtout en compte le taux de réussite au bac. Et c'est vrai que quand on rentre dans les grands lycées parisiens, en général, on n'a pas beaucoup de chances de le rater, le bac. Donc à l'arrivée, bah oui, on l'obtient. Donc c'est pas mal. Voilà, c'est très bien de mettre en avant ces. C'était mon édito ce soir. Voilà. Vive le lycée de Colomb. Merci beaucoup Nérissa et Mani.
RTL Inside.
Allez, 18h36.
Je l'ai perdu, Klaus.
Je trouve que les jeunes ont beaucoup de talent. J'aime beaucoup, par exemple, Virozek.
Okay. Klaus, je vous revois, mais je vous avais perdu.
Lui aussi, il est un petit peu éditorialiste à ses heures perdues.
Non.
C'est à vous, cher Alex Vizorek, pour la visioconférence du jour. Vous souhaitiez commencer par le classement de l'ONU, on l'évoquait un petit peu plus tôt, des pays où les habitants sont les plus heureux en 2024.
Pour la 7e année consécutive, c'est donc la Finlande qui arrive en tête. Comme quoi, nous, on les prend pour des idiots parce qu'ils mangent des harengs crus et qu'ils mettent des petites bulles au-dessus de leur voyelle entre les K dans les mots. Mais c'est peut-être ça le bonheur, hein, voyez. Alors, le dernier, ça on n'en a pas encore parlé, à la 143e place du classement, l'Afghanistan. Ouais, l'Afghanistan, c'est bizarre. C'est le Clermont Foot du bonheur. À la différence que les Afghans, contrairement aux supporters de Clermont, ils peuvent même pas se bourrer la gueule pour oublier qu'ils sont malheureux et qu'ils sont lanterne rouge. Et la France, eh bien, vous êtes 27e. Bon, voilà, mais par rapport à la Belgique, oui 17e, c'est pas grave, la prochaine fois vous ferez mieux, et de toute façon vous êtes bien placé pour le savoir, l'important c'est de participer. Mais oui, bon après, c'est pas une énorme surprise, hein. Je veux dire, il suffit de rentrer dans le bureau d'RTL Bonsoir vers 16h30 pour se rendre compte que les Belges sont plus heureux que les Français en moyenne.
C'est pas totalement faux. Revenons à présent sur la visite d'Emmanuel Macron à Marseille dans le cadre de l'opération PlaceNet.
PlaceNet XXL, qu'il l'a appelé, hein, parce que ça fait plus peur. Et j'avoue, Macron qui débarque comme ça dans les quartiers nord pour régler le trafic de drogue, c'est un peu OSS 117 qu'on aurait perdu dans Narcos. Ouais, ça ne marche pas. Et sur France Info, bah, ils ont voulu savoir si ça avait inquiété un petit peu les dealers. Ne me demandez pas comment, ils ont interviewé un ponte du deal qui est en prison et qui parlait sous anonymat.
Franchement, moi je suis haut placé. Quand je vous dis je suis bien, c'est que je suis bien, je suis haut placé.
Et vous, votre vision, c'est que la police, elle a une action limitée sur tout ça?
Ça nous fait rire. On a tous rigolé derrière la télé. Tous les prisonniers, on a bien rigolé.
Voilà, hier, ils étaient en prison, ils ont vu Macron dans les quartiers et ils se sont bidonnés. Et c'est dommage que le président n'ait pas fait ses discours avec l'accent local, parce que sinon, il serait passé numéro 1 des comiques préférés des Marseillais devant Redouane Bouguera.
Passons à Marine Le Pen qui était ce matin en interview sur France Inter.
Oui, alors, soyons clairs, ce matin, j'ai écouté RTL. Attends, Amandine et Yves recevaient Amine Kessassi, candidat Europe Écologie Les Verts et jeune président d'une association pour redorer l'image des jeunes de banlieue à Marseille. Et je suis hyper content parce que je commence à sentir un peu mon influence sur la programmation d'RTL. On reçoit un jeune arabe qui aide les plus démunis. Et sur Inter, depuis que je suis parti, qu'est-ce qui se passe? Il donne la parole à l'extrême droite, tranquillou. Bon, pour dire n'importe quoi en plus.
Ah ouais, ça change. En l'occurrence, Marine Le Pen donc a déclaré choisir Aya Nakamura pour les JO 2024 revient à humilier les Français.
Excusez-moi, mais donc c'est n'importe quoi parce que comme si les Français avaient besoin d'Aya Nakamura pour se faire humilier aux JO. Alors que il y a les épreuves de tennis, les épreuves d'athlétisme, les épreuves de cyclisme. Bon, alors on va vous laisser le judo, mais bon, un sport qui se pratique en peignoir et qui ressemble plus à une initiation au Kama Sutra, bon, hein, on vous donne les médailles. Non, mais surtout, faut-il vraiment tenir compte de l'avis de Marine Le Pen en matière de choix musicaux, alors que l'artiste le plus connu à avoir accepté de chanter dans les galas de son parti, c'est Bébert déformant.
C'est vrai en plus. JO encore, on a appris aujourd'hui que 240 000 préservatifs seront donc mis à disposition des athlètes pendant la quinzaine olympique.
Voilà, a priori, les athlètes français n'iront pas droit pour cause de réarmement démographique. Mais j'ai fait une petite règle de 3. 240 000 préservatifs pour 10 500 sportifs, ça donne autour de 23 préservatifs par tête pour seulement 15 jours. J'ai un peu ramené à mes performances à moi. Franchement, bah, ça va aller, quoi. Mais entre...
C'est la jeunesse.
C'est la jeunesse. Mais en plus, ils doivent faire des performances sur les terrains, si vous voulez. Je pense qu'ils vont tous finir sur les rotules et vont être reversés directement dans les épreuves paralympiques. Ça va être vite.
Allez, on termine avec un article qui a attiré votre attention.
Et ouais, je l'ai imprimé parce que je me suis dit, ils vont pas me croire. Alors, le titre de l'article, « Les hommes portant ce prénom seraient des meilleurs amants selon cette étude. »
Vas-y, je sais pas, Alexandre.
Ouais, si ça s'appelle Alexandre, vous sortez.
Il y a plusieurs prénoms. Ah. Parce qu'en fait, on a demandé à des femmes d'origine différente, d'orientation sexuelle différente, d'âge différent, de donner une liste de prénoms masculins et de les associer des adjectifs qualificatifs concernant les performances au lit. Et plusieurs prénoms sont ressortis.
Par exemple, génial.
Il y a Benjamin. Benjamin, pour son attention et son innovation. Voilà. Christophe, sensibilité et endurance.
Oula.
Julien, le romantisme.
Ça me caractérise.
Et le premier non cité, mesdames, et c'est évidemment Alexandre. Je ne l'ai pas fait exprès. Passion et énergie.
Oula. On est belle, certain.
Peggy, voilà. Moi, je ne suis pas disponible, mais trouvez volontiers un Alexandre quelque part.
Alors, consterné par ce que j'entends.
Eh oui, parce que évidemment.
Moi, je suis pas dedans.
Il n'y a pas de Cyprien.
Pas de Cyprien.
Non, j'ai pas été sondé. Moi, je suis exceptionnel.
Dans la liste. Et c'est compréhensible, puisque c'est vrai qu'on dit femme qui rit à moitié dans ton lit. Mais on dit aussi « homme qui explique une blague à femme qui rit totalement sur la béquille ». Évidemment.
Oh, elle était gratuite, celle-là.
Ouais, mais elle était bonne.
Ouais, mais elle était bien placée. Elle était subventionnée. Merci beaucoup, Alex. Alex, on vous retrouve sur scène, oui. Je le précise, chez le copain Laurent Gérard à Valseny, dans l'auditorium Laurent Gérard pour vendredi. Son festival. Ce sera vendredi. Et vous serez d'ailleurs avec Laurent sur l'antenne de RTL Bonsoir entre 18h et 20h vendredi à l'antenne. En attendant, vous restez autour de la table, s'il vous plaît.
Bah oui.
On va chanter dans quelques minutes. On connaît votre.
Oula. Si je peux aider.
Votre autre organe. Après 19h, Kelly viendra ici en live dans ce studio. On va fêter les 20 ans de son album L'amour parfait et il revisite ses tubes avec Adamo, Cabrel, Benabar, Calogero, Lavillier, Obispo, Olivia Ruiz. Bref, que des petits jeunes qui débutent.
Hein. Et en attendant, on reprend le fil de l'actu avec les James Bond des impôts. Ils traquent les fraudeurs. Ils ont récupéré plus de 15 milliards d'euros cette année. Ils scrutent vos réseaux sociaux. Un expert vous dévoile leur méthode.
RTL Bonsoir, jusqu'à 20h. Julien Cellier. RTL Bonsoir, jusqu'à 20h.
Allez, RTL Bonsoir, votre émission continue. On va accueillir maintenant notre invité pour tout comprendre.
Et ce soir, vous allez découvrir tous les secrets des agents du fisc. Vous allez comprendre comment Bercy a récupéré 15,2 milliards d'euros l'an dernier, ce qui fait la fierté du Premier ministre Gabriel Attal.
En matière de fraude fiscale, nous n'avons jamais autant traqué la fraude. Les résultats dépassent tous les objectifs que nous nous étions fixés pour l'année dernière.
Le Premier ministre à Bercy ce matin.
Alors, comment les James Bond du fisc arrivent à leur fin? Quelles sont leurs méthodes d'enquête? Est-ce qu'ils utilisent les nouvelles technologies pour traquer les fraudeurs?
Pour tout nous raconter, on accueille Jérôme Barret, avocat fiscaliste au cabinet Yards. Bonsoir.
Bonsoir.
Jérôme Barret, pour récupérer ces 15,2 milliards, déjà, ils sont combien les agents du fisc à traquer les fraudeurs?
Les agents du fisc, ils sont très nombreux, mais c'est surtout qu'on en a mis de façon supplémentaire. En fait, ce qu'on sait, c'est que déjà depuis M. Sarkozy, quand il était passé par le budget un très court moment, on a mis beaucoup de pression et beaucoup de travail sur les agents. On en a recruté 281 l'an dernier et 350 supplémentaires le seront en 2024. On parle de recrutement. Hein. Et par ailleurs, on prendra parmi les agents, sur la base probablement du volontariat, 1500 agents supplémentaires qui vont être dédiés à la lutte contre la fraude fiscale. Je crois qu'il y aura encore 450 qui vont être dotés de prérogatives de police judiciaire et spécialement qui vont être formés à ce qui concerne les cyber-enquêtes. Et enfin, 100 équivalents temps plein, c'est ce qu'on nous dit, qui vont être redéployés sur le contrôle douanier et notamment sur le e-commerce. Donc plus d'un milliard d'euros supplémentaires qui vont être alloués à cette modernisation des outils numériques.
Alors, une petite armée d'agents qui disposent désormais de moyens techniques assez incroyables pour traquer les fraudeurs. Tiens, je voudrais vous faire écouter Emmanuel Delacherie, c'est le monsieur contrôle de l'URSSAF, il est au micro RTL de Vincent Serrano.
L'intelligence artificielle, notamment le data mining, alors, qui s'appuie sur des entrepôts de données qui s'enrichissent chaque année, et des capacités machines aussi qui se développent chaque année, c'est un outil majeur pour progresser.
Alors, intelligence artificielle, data mining, on parle de quoi? Ça veut dire quoi, Jérôme Barret, tout ça?
Alors, ça veut dire que jusqu'à maintenant, il y avait une collecte d'informations qui est faite de façon un peu empirique, dans la mesure où il y a quand même un traitement qui est un traitement manuel. Alors, le data mining, c'est beaucoup plus large, c'est beaucoup plus vif. Et avec l'intelligence artificielle que j'appellerais collaborative, on va pouvoir traiter énormément d'informations, de les travailler dans tous les sens et d'avoir des réactions quasiment en temps réel et de manière exhaustive. Ce qui compte beaucoup, c'est le caractère exhaustif. Quelque chose qui est traité par la main humaine ou par son esprit, c'est quelque chose qui prend du temps, qui peut être mis de côté, qui peut être oublié. Là, on aura un travail systématique, donc beaucoup plus rapide et beaucoup plus performant.
Donc l'ordinateur détecte systématiquement, en quelque sorte, les fraudeurs à base des data, des données, c'est ça l'idée?
Exactement, c'est ça, c'est la recherche. Et alors, ce qu'on nous avait dit également, c'est que ces données, on ne se priverait pas d'aller les chercher sur les réseaux sociaux, hein, notamment sur des éléments de critères de richesse ou d'occupation, ou votre piscine, etc. Maintenant, on est allé à une étape encore supplémentaire, puisque quand vous avez quelqu'un sur Facebook qui vous demande s'il veut être votre ami, vous l'acceptez ou vous ne l'acceptez pas. Mais si vous l'acceptez, en fait, là, vous savez qu'il y a quelqu'un qui va pouvoir accéder à des données qui, elles, ne sont pas publiques. Et puis, si vous avez le petit Julien qui vous dit... Je m'appelle Julien, j'ai 13 ans et je voudrais faire telle ou telle chose. Mais bien sûr, soit, eh bien, si vos enfants sont très amis avec le petit Julien et que le petit Julien, il ramasse toutes les photos que vous ne montreriez pas, mais on voit vos 42 Ferrari, vos 10 pièces d'eau, vos étangs et vos vacances dans votre magnifique chalet, évidemment, c'est quelque chose qui va ressortir.
Faut se méfier des Juliens, c'est-à-dire que le Julien de 13 ans, c'est peut-être un agent du fisc, c'est ça?
Il peut y avoir des petits Juliens très gentils.
Des fausses identités pour devenir ami avec nous et avoir accès à plus de données. Ça peut arriver.
Exactement. Ce qu'on vous reprocherait si vous faisiez une chasse qui ne serait pas légale, si je puis dire.
Et la dénonciation à l'ancienne, ça fonctionne toujours, ça?
Alors la dénonciation à l'ancienne, elle existe toujours. C'est ce qu'on appelle les aviseurs fiscaux. Ils ont conduit au déclenchement entre 2017 et 2021 de mémoire. Je crois que c'est 317 signalements qui ont été réalisés, qui ont conclu en fait au déclenchement de 60 contrôles fiscaux, parce que on peut avoir une dénonciation puis que on sait que c'est une dénonciation vengeance et finalement il y a rien du tout, c'est plus une capacité de vous ennuyer, et ça a amené quand même à la récompense de 6 lanceurs d'alerte, 6 aviseurs.
Mais quand vous dites récompense, vous parlez de quoi?
Eh bien, ça peut monter jusqu'à 15% de la somme qui est récoltée par le fisc.
Ah, donc il y a un bonus pour le délateur?
Eh oui.
C'est-à-dire
oui,
que si je balance Julien, je récupère 15% de ce qui est récupéré par le fisc.
Alors, je ne voulais pas vous le conseiller, mais peut-être que c'est ce qu'il faudrait faire.
Mais est-ce qu'il y a un profil type de délateur?
C'est toujours les mêmes choses. Quand on est d'accord pour s'associer avec quelqu'un dans une activité et puis que tout va bien, ça va. Le jour où ça va moins bien, tous les coups sont permis. De la même manière, on l'avait vu, ça avait concerné Monsieur Cahuzac. Hein. Dans le cadre de son divorce, il s'est fait rattraper parce que son épouse l'avait dénoncé. L'administration, elle lit également les décisions de justice. Quand des héritiers ne s'entendent pas et qu'ils mettent sur la place beaucoup de choses, eh bien l'administration, elle se renseigne sur ces sujets-là. Là aussi, d'ailleurs, on verra que les données seront probablement saisies de manière plus intelligente et que tout ça, ça va ressortir. Donc, à ce moment-là, le délateur, c'est celui qui n'est pas content.
Quand on vous écoute quand même entre le data mining, Facebook et compagnie, on a l'impression que c'est impossible d'échapper au fisc aujourd'hui. Là, on a récupéré plus de 15 milliards d'euros. Mais la fraude fiscale, ça représente combien tous les ans?
Alors ça, c'est difficile de dire, parce que si on le savait, on aurait le chiffre. Hein. Mais globalement, le Français va assez bien à l'impôt, il consent bien à payer son impôt. C'est même un des pays, je crois, dans le monde où il y a le plus de consentement à l'impôt.
Et comment on peut faire encore pour échapper au fisc? Je dis pas ça pour moi, hein, mais...
Si on est en France, c'est très difficile.
Un bon fiscaliste.
On n'échappe pas. Mais un bon fiscaliste n'est pas contre l'impôt.
Bon, on l'a compris, c'est compliqué d'échapper au fisc et au James Bond du fisc et aux nouvelles technologies aujourd'hui. Merci à vous pour vos explications, Jérôme Barret, avocat fiscaliste au cabinet Yard. Merci d'avoir été ce soir notre invité pour tout comprendre dans RTL Bonsoir, émission qui continue avec le match des infos pour Brioudiné. Est-ce qu'il paye ses impôts en France, Vizorek, d'ailleurs?
On va lui demander quand il sera revenu, parce que bizarrement, il est sorti.
On va lui demander la bataille d'anecdotes entre Isabelle et Alex Vizorek. C'est juste après ça, et puis après 19h. 20 ans qu'il nous fait danser. Il fête les 20 ans de son album culte et il vient chanter chez nous dans ce studio. Cali va nous rejoindre tout de suite.
Julien Cellier, Isabelle Choquet et Cyprien Signy. RTL Bonsoir. RTL Bonsoir. And round
number one. Allez, RTL, bonsoir. Le grand match, comme promis, des infos pour Brioudiné. Ça y est, tiens, comme par hasard, Alex est revenu en studio. Alors, ces infos, alors, Alex
J'entends qu'on persifle dans mon dos.
Ah non, oui.
Je tiens à dire que je paye mes impôts en France, chers amis. Bien. Et ce, depuis le début du fait que je travaille sur le service public. Je trouvais ça plus honnête de payer mes impôts en France, vu que c'est l'argent français qui me rémunère.
Donc si quelqu'un vient vous chercher, c'est le fisc belge plutôt.
Oui, mais comme je suis plus là-bas, non, c'est réglo, mon pote. Désolé de vous décevoir.
Pour tous les inspecteurs des impôts qui nous écoutent, il est réglo. Allez, le duel vous oppose ce soir à l'invincible Isabelle.
Isa a choisi ce soir de briller avec les Galeries Lafayette, puisque 26 magasins sont menacés de fermeture.
Et mon info concerne le vaisseau amiral, le magasin du boulevard Haussmann à Paris, le tout premier construit fin 19e. Mon info, c'est que ce magasin a été le théâtre de l'un des plus grands exploits de l'histoire aéronautique. Ce toit, c'est déjà une attraction en soi. La vue est formidable, on voit l'Opéra Garnier, la Tour Eiffel, les toits de Paris. Dès l'ouverture en 1908, les galeries organisent sur cette terrasse des événements d'exception et les fondateurs, les frères Bader, lancent un défi aux as de l'aviation. Ils promettent 25 000 francs à celui qui réussira à se poser sur le toit et à redécoller.
Oh.
Alors, en avion, bien sûr. Alors,
les voisins à côté devaient être contents.
Plusieurs pilotes sont intéressés, notamment Roland Garros. Ouais. Mais tout le monde renonce parce que c'est une piste minuscule. C'est à peine plus large qu'un avion et ça fait 27 mètres de long seulement. C'est finalement Jules Védrine qui tente le coup un matin de janvier 1919. Décollage d'ici les Moulineaux, atterrissage sur le toit. Pas de redécollage parce que l'avion finit sa course dans la cage des ascenseurs. Védrine touche quand même la prime, mais il doit aussi payer une amende de 16 francs parce que depuis 1912, c'est interdit de survoler Paris. Et l'histoire se finit assez tristement. Il n'a pas profité très longtemps de son succès parce qu'il est mort 3 mois plus tard en tentant un vol Paris-Rome.
Pop, ça c'est de l'info pour Brioudiné. Hein.
C'est terrible quand même. Il a réussi à se poser sur le toit et il n'arrive pas à faire un Paris-Rome.
Il a eu une panne de moteur sur le Paris-Rome. Je ne vous raconte pas tout, mais.
Voilà, c'est fou. Vous déclarez forfait maintenant ou vous préférez perdre avec les honneurs comme les Belges? Foot.
C'est très franco-centré. Moi, c'est plutôt tourné vers le monde.
Oui, ce que vous
êtes altruiste.
En bon belge francophone, Alex a choisi de briller avec notre belle langue française en cette journée mondiale de la francophonie.
Presque une info géopolitique. Tenez-vous bien. Oula. Info pour briller. En 2050, le français pourrait être la langue la plus parlée au monde.
Quoi?
Déjà, je vous ai accroché. Il y a aujourd'hui 220 millions de francophones dans le monde. Avec l'excellent... Enfin, c'est... En haut, vous avez les Belges. Si vous descendez, bon, les Québécois, les Suisses en bas. Mais oui, mais tout le monde, toute la francophonie. C'est la quatrième langue la plus parlée.
Ah bon?
Mais...
Ah oui, c'est vachement haut, d'accord. Ah oui.
Selon les projections... Bon, j'imagine que ça va être l'espagnol, le chinois et l'anglais devant. Mais selon les projections... Une étude de la banque d'investissement Natixis, d'ici 3 décennies, grâce à la démographie essentiellement en Afrique subsaharienne, on devrait être à 750 millions de francophones, ce qui nous placerait en tête du classement. Alors vous allez me dire, mais il y a beaucoup plus de Chinois.
Ah oui.
Oui, mais
ils ont des langues différentes.
Exactement.
Mandarin, cantonais. Ils peuvent lire la même chose.
Alors que nous avons le même. Nous avons le même français, nous.
Ah là là là. Oui. Oh, le même français.
Ça se discute, ça.
Ça se discute.
Enfin, vous le comprenez. Comme vous disiez.
Pour avoir parcouru votre pays en long et en large. Et
si vous allez à Bruges ou à Gand, fatalement, ça parle flamand.
Non, non, je parle pas. Je parlais pas des flamands.
Salut les liés.
Il est temps de voter maintenant. La francophonie ou les avions sur le toit des Galeries Lafayette à Paris, Peggy?
La francophonie pour moi.
Moi, je vais prendre les avions, enfin l'avion sur le toit de des Galeries Lafayette.
Je vais prendre l'avion aussi.
Moi aussi, je crois que je vais
prendre... Oh non,
J'ai eu un temps de réflexion. Le sort de ce match était entre mes mains.
Première défaite pour Alex de la semaine. Hein.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Vous avez tenu le choc.
Il y a un moment, vous savez, quand vous avez Tyson en face, hein, un moment, il y a une droite.
Il était en sur-régime, au bout d'un moment, ça explose.
C'est ce que disait Eden Hazard en demi-finale de Coupe du Monde. Allez, RTL, bonsoir, reviens.
Ah, il y a eu un magnifique tacle en plus. La victoire la met en confiance. Elle a quand même dit pour une fois qu'il était au régime, hein, je répète.
Je vais y aller, moi. Je vais vous laisser avec Kali alors que j'aurais bien chanté.
Exactement, Kali va venir chanter ici en studio le programme complet du 19-20. On vous le dévoile juste après ça.
RTL, bonsoir. Julien Cellier. RTL Bonsoir jusqu'à 20h.
Et toute la bande s'occupe de vous, effectivement, pendant encore une heure, juste avant le journal. Comme promis, le programme du 19-20. Notre grand invité dans quelques minutes, ce sera Kali qui viendra chanter ici en live dans ce studio.
On va fêter. On va fêter les 20 ans de son album L'amour parfait. Il revisite ses tubes avec Adamo, Cabrel, Benabar, Calogero, Stéphane Escher, Bernard Lavillier, Pascal Obispo ou encore Olivier Ruiz.
À suivre aussi les dessous de l'actu. Quelle équipe de France de foot au JO, Mbappé, Benzema peuvent-ils être sélectionnés par Thierry Henry? Il y aura de la cuisine avec des falafels dans la guinguette d'Angèle et un week-end au Parc Astérix à gagner dans le Grand Quiz. 19h, 1 minute. Et voici maintenant le 360. 360 secondes pour tout savoir. C'est avec vous, Aude Vernuccio. Bienvenue, bonsoir.
Bonsoir, Julien. Bonsoir à tous. Trois personnes mises en examen après la méga cyberattaque sur France Travail. Potentiellement, 43 millions de Français se sont fait voler leurs données. Les trois suspects, âgés d'une vingtaine d'années, ont été placés hier en détention. Et d'après les premiers éléments de l'enquête, Sophie Neumayer, ils ont réussi à hacker le site avec une facilité déconcertante.
Oui, simplement en quelques coups de téléphone, les suspects ont contacté la plateforme de support technique de France Travail en se faisant passer pour un agent de Cap Emploi, le réseau de France Travail dédié aux travailleurs en situation de handicap. Ils n'ont eu qu'à demander la réinitialisation du mot de passe pour accéder au compte de cet agent et par la même occasion aux données personnelles des demandeurs d'emploi inscrits ces 20 dernières années, 25 gigas de données au total. L'enquête ne dit pas encore comment ces jeunes sont parvenus à trouver le nom et l'identifiant de cet agent Cap Emploi. L'un d'eux a préféré garder le silence, son frère lui nie de son côté toute implication. Ils sont trois au total à être mis en examen et incarcérés. Leur défense martèle qu'à ce stade, aucun préjudice n'a été constaté. Rien pour le moment n'indique que les données de ces 43 millions de personnes ont été utilisées à des fins frauduleuses. De son côté, France Travail n'a pas souhaité faire de commentaires et se contente d'indiquer que c'est à la justice de faire son travail.
Information signée Sophie Neumayer pour RTL. Merci à vous. RTL vous l'a révélé 8 mois après la disparition d'Émile. Une reconstitution, ou plus précisément une mise en situation, aura lieu la semaine prochaine. Tous les protagonistes présents ce jour-là sont convoqués. Le garçon de 2 ans est introuvable depuis qu'il a échappé à la surveillance de son grand-père dans le hameau du Haut-Vernay dans les Alpes de Haute-Provence.
La reprise de Valdune par Europlasma validée par le tribunal de commerce de Lille.
Le dernier fabricant français de roues et d'essieux ferroviaires sauvé, mais au prix de quelques emplois sacrifiés. 131 salariés ne seront pas repris. Philippe Liouk est délégué CGT à Valdune.
La mobilisation des salariés, en premier avec la CGT, a permis de sauver ce fleuron industriel. Le savoir faire restera en France. Les deux sites de Valdune resteront ensemble. Les points positifs, c'est ça. Les points négatifs, c'est les pertes d'emplois, forcément. Mais on continuera à se battre jusqu'à dernière minute pour sauver encore des emplois. Il n'y aura pas 131 licenciements. On fait le maximum, nous, de notre côté.
Aujourd'hui, vous avez eu des garanties de commandes, notamment via la SNCF?
Oui, on a des courriers SNCF, RATP, Alstom sur des commandes. Après, on ne va pas dire que l'État n'a rien fait. L'État, il s'est engagé. Il met de l'argent sous forme de prêts ou de subventions, c'est bien. La région aussi s'est engagée. On n'arrêtera jamais de sortir des roues à Valdune. C'est ce qu'on voulait.
Des propos recueillis par Franck Hanson pour RTL. Emmanuel Macron convoque pour un dîner à l'Élysée ce soir les principaux cadres de la majorité sur la situation des finances publiques, sujet hautement sensible. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire avait prévenu que le déficit public irait significativement au-delà des 4,9% en 2023. À 3 mois des élections européennes, le Rassemblement national largement en tête des intentions de vote avec 30% d'après notre sondage Harris Toluna candidats pour Challenge et RTL M6. Le RN gagne 2 points. En deuxième position, la liste Renaissance de Valérie Hayé à 18%. Raphaël Glucksmann à gauche remonte avec 13%, plus 2 points par rapport au mois de janvier.
Les agriculteurs français demandent encore plus de fermeté de la part de l'Union européenne.
L'Europe qui a décidé de plafonner certaines importations ukrainiennes, un pays certes en guerre, mais qui inonde le marché européen de sa production en œufs, sucre, volailles, céréales, une production telle qu'elle déstabilise les agriculteurs français, Virginie Garin.
Oui, bien sûr, il faut aider les Ukrainiens, disent-ils, mais attention, c'est un grand pays agricole et ouvrir nos frontières de la sorte, c'est risquer de déstabiliser nos marchés. Les cours du sucre ont déjà chuté de 40%, ceux du blé de 25% en 2 mois. Donc l'accord signé la nuit dernière à Bruxelles prévoit de limiter les volumes importés d'œufs, de volailles, de maïs ou de miel, mais ça ne suffit pas, disent les agriculteurs français. Le gouvernement n'est pas satisfait non plus. D'ailleurs, Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture, veut continuer à négocier avec Bruxelles des volumes encore plus faibles et que le blé soit aussi concerné, soit protégé, parce qu'en principe, les céréales ukrainiennes, elles ne font que passer en Europe pour aller dans d'autres pays. Mais il y aurait des fraudes et une partie serait quand même vendue chez nous. Alors d'autres pays sont mécontents. Il y a eu des barrages dans toute la Pologne aujourd'hui et des postes frontières avec l'Ukraine bloqués pour dénoncer justement ces importations.
Explication signée Virginie Garin. 4 morts et 7 blessé en Ukraine dans une frappe russe sur la ville de Kharkiv. Le bilan pourrait encore s'alourdir. Une dizaine de personnes seraient piégées dans les décombres, selon le gouverneur. Côté russe, la région frontalière de Belgorod a subi des bombardements. 2 civils ont été tués et 2 autres blessés.
50 ans plus tard, les descendants de harkis réclament les dépouilles de leurs proches morts dans le camp de Rivesaltes, dans les Pyrénées-Orientales.
21 000 harkis y ont vécu dans les années 60 et on estime qu'une 50aine d'enfants y sont morts. Des fouilles devaient débuter au début du mois. Fouille reportée car sur une zone naturelle protégée. On y trouve la couleuvre de Montpellier et le lézard ocellé. Hassen Arfi y a vécu, enfant dans ce camp de Rivesaltes. Il espère aujourd'hui récupérer la dépouille de son petit frère.
Ma mère a accouché là-bas. Elle a accouché sous la tente devant nous. Et l'enfant, il est mort à la naissance. Et puis le lendemain matin, mon père a pris une pioche. Et on a été dans un terrain vague. Mon père a creusé un trou. Et puis, on a mis notre frère sous une serviette de bain. On l'a enterré comme ça. C'est un soulagement de savoir qu'ils vont attaquer les fouilles, que nous, on puisse porter notre deuil à notre frère et les familles pourront se reposer devant une tombe. Voilà. Mais quand même, on est en 2024. C'est une honte. C'est une honte que plus de 60 ans après, on est encore là.
Un témoignage recueilli par Patrick Tégéraud pour RTL.
Merci Odé, à tout à l'heure à 20h. Le temps, est-ce qu'on peut faire un point sur les températures de demain déjà, oui. Peggy, qui sont anormalement hautes. C'est très agréable le printemps quand on sort, mais c'est pas du tout normal en cette période.
On est bien d'accord, on sera 3 à 5 degrés, voire plus, localement, au-dessus des normales de saison, en tout cas pour l'après-midi. Le matin, on se couvre quand même du côté de Rennes, on a 5 petits degrés, jusqu'à 13 à Perpignan, 7 à Brest, 8 à Lille, 10 à Paris, 11 à Bordeaux. Les maximales, 12 au Havre demain, 15 à Lille, 17 degrés du côté de Nice, 18 à Paris comme à Brest, 20 degrés à Lyon, Nantes et Toulon, 21 à Clermont-Ferrand, 22 à Biarritz et Grenoble, 23 à Agen et Nîmes et jusqu'à 24 degrés demain après-midi à Bordeaux. Côté ciel, alors on a des averses orageuses qui vont traverser le pays cette nuit, qu'on retrouvera demain matin entre l'Alsace-Lorraine, la Bourgogne-Franche-Comté en allant jusqu'au nord du Massif central. Ça restera bien couvert sur les bords de Manche. Du sud-ouest à la Méditerranée, on a pas mal de grisailles. Ailleurs, on aura déjà du beau temps. Ces grisailles, elles vont se dissiper, donc on va retrouver du soleil quasiment partout, sauf au bord de Manche, sur les bords de Manche où ça restera bien nuageux malgré quelques timides éclaircies. Et puis les averses, elles vont glisser. On va les retrouver entre le Massif central et les Alpes, avec un coup de tonnerre possible sur le relief des Alpes et également sur le relief des Pyrénées.
Merci beaucoup, Peggy. Peggy, on va chanter dans quelques minutes parce que notre grand invité, ce sera Kali.
Je crois que je ne t'aime plus. Elle m'a dit ça hier. Ça claquait dans l'air.
C'est plus un qui a envie de chanter surtout. Hein.
J'adore chanter.
Ouais, alors a priori, pour les 20 ans de cet album mythique de Kali, tous les tubes sont repris en duo, mais ce ne sera pas avec vous, Cyprien.
Et c'est une erreur, on en parlera tout à l'heure avec Kali.
En l'occurrence, elle m'a dit, ce sera avec Calogero, c'est le titre qu'il va venir chanter avec un pianiste de génie ici dans ce studio. Avant d'accueillir notre grand invité pour fêter effectivement cet anniversaire, les 20 ans de l'amour parfait, cet album culte, eh bien on va parler football et Jeux Olympiques.
RTL Bonsoir. Les dessous de l'actu.
Avec les dessous de notre équipe de foot olympique.
Oui, car le tirage au sort a lieu ce soir à 20h, dans moins d'une heure. Donc maintenant, on va enfin connaître nos adversaires. Mais pour savoir qui sera en bleu pour les Jeux, ça c'est une autre histoire. Bonsoir Philippe Sanfourche.
Bonsoir.
Comment Thierry Henry fait-il son choix? C'est quoi les règles?
Alors les règles, elles ne sont pas dictées déjà par la Fédération Française de Foot ou même la FIFA, mais par le CIO, le Comité International Olympique. Alors normal, vous me direz, hein, puisque ce sont les Jeux Olympiques. Et la règle principale, elle est assez contraignante, puisque les joueurs convoqués peuvent être professionnels, mais tous nés après le 1er janvier 2001. Donc des joueurs de 23 ans maximum, pour faire simple. Ils seront 18 au total, avec tout de même 3 exceptions possibles, 3 joueurs bonus, en somme, qui peuvent avoir n'importe quel âge.
Ouais, voilà. N'importe quel âge, ok. Et alors pourquoi c'est si compliqué, en fait ?
Et bien parce que le tournoi olympique ne rentre pas dans le calendrier officiel de la FIFA. En clair, du 24 juillet au 9 août, les clubs professionnels qui payent les joueurs, grassement, ne sont pas tenus de les libérer pour la sélection, comme c'est habituellement le cas pour la Coupe du Monde, l'Euro ou même de simples matchs de préparation comme le France-Allemagne qui va avoir lieu samedi prochain. Ça veut dire que Thierry Henry, pour chaque joueur qu'il souhaite emmener au JO, va devoir négocier avec leur club, qu'ils soient français ou étrangers, qui eux n'ont absolument aucun intérêt à les libérer puisqu'il y a des risques de blessures ou ça vient entamer leur préparation puisqu'à ces dates-là, tous les clubs ont repris pour la saison suivante.
Même pour les moins de 23 ans donc, hein.
Ah, pour tout le monde.
Ouais, d'accord.
Et après, il faut aussi compter avec l'équipe A, celle de Didier Deschamps.
Exactement, puisque bah, vous n'aurez pas échappé qu'il y a un Euro qui va se jouer cet été, juste avant, du 14 juin au 14 juillet. Donc si on compte bien, 14 juillet, potentiellement la finale, on espère tous que la France y soit. Ça fait 9 jours de battement entre la finale
pas tous,
et le début.
Pas tous, il y en a un qui n'espère pas que la France y soit dans ce studio.
Vous pouvez y être, la gagner, c'est autre chose.
Ah, la Belgique.
Donc si ça se passe bien ou mal, selon de quel côté on se trouve, il y a potentiellement 9 jours de battement entre la finale et le début du tournoi olympique. Autant dire que sur le plan physique et mental, c'est très compliqué, pour ne pas dire impossible, de cumuler les deux. Alors certains ont émis le souhait, on pense évidemment à Kylian Mbappé ou encore à Antoine Griezmann, de le faire tout de même, mais on peut dire qu'ils ne sont pas franchement encouragés par le staff de l'équipe de France, que ce soit le staff, les préparateurs physiques ou Didier Deschamps.
Et puis alors leur club, encore moins du coup.
Bah, ça
risque de se blesser.
Se cumule.
Ouais, voilà, c'est ça.
Et dis donc, Benzema qui dit qu'il est partant, là, c'est la nouvelle du soir hier, c'est faisable ça?
Bah techniquement c'est faisable. Alors encore une fois, on rappelle la règle, si son club d'Al-Ittihad en Arabie Saoudite accepte de le libérer à cette date, ce dont on est à peu près sûr, c'est qu'il ne fera pas l'Euro, vu comme l'histoire s'est
priori,
terminée avec,
mal parti,
avec Deschamps. Donc à ce niveau-là, il sera libre. Mais même si ce serait indéniablement un renfort de poids et Thierry Henry parmi de nombreuses solutions à cocher le nom de Karim Benzema, qui apporterait sa technique sur le terrain et son immense expérience des grands rendez-vous. Maintenant, il y a un enjeu d'image. On l'a vu avec le choix de Thierry Henry comme sélectionneur de l'équipe de France Espoir. L'image de Karim Benzema, elle est pour le moins contrastée. Et donc, ce qui est certain, c'est que la décision ne se prendra pas simplement au niveau du terrain, mais ce sera une réflexion globale qui englobera justement ces questions d'image.
La liste, on la connaîtra quand? Parce que c'est vrai que sur le papier, on se dit qu'une équipe de France, on a des moins de 23 ans qui sont formidables, certains qui jouent déjà avec l'équipe de Didier Deschamps, je pense à Saliba, à Kamavinga.
Ouais, mais eux, justement, c'est le problème.
Qui sont titulaires dans les plus grands clubs du monde. Si on ajoute Mbappé, Griezmann, Benzema, on va battre tout le monde. Mais ça, c'est la liste sur le papier.
C'est la liste idéale.
Ouais. On la connaîtra quand, la vraie liste? Celle qui sera sans doute un peu plus
Alors, il y a une date butoir administrative, j'ai envie de dire, qui est le 3 juillet. C'est-à-dire qu'au 3 juillet, il faut que Thierry Henry ait envoyé sa liste de 18 joueurs à la FIFA. On me dirait pourquoi à la FIFA, sachant que c'est pas un tournoi à FIFA. Ça, c'est toute la complexité de la chose. Mais en tout cas, mais Didier Deschamps, lui, il a émis une autre règle. Et vous vous en souvenez, Julien, puisque nous
c'était dans l'émission,
interviewé ensemble, et il avait demandé expressément à ce que il soit fixé, en tout cas pour les joueurs qui concernent sa sélection et l'Euro, avant le début de l'Euro. Donc c'est un casse-tête impossible pour Thierry Henry. C'est pour ça que tous les jours on parle de cette affaire et que c'est loin d'être réglé.
Alors Messi pourra jouer avec l'Argentine, en revanche. Vu qu'il joue aux États-Unis, ils le laisseront libérant. Et donc,
vous avez des infos, vous.
Ah non, mais c'est évident.
Ah, oui. Et alors, dites donc les Belges,
alors,
JO.
Alors, laissez-moi vous parler
De Bruyne.
De hockey sur gazon. Qui est un sport aussi très intéressant dans l'olympisme, parce que je vois bien où vous voulez en venir. On ne s'est pas qualifié.
Les Belges ne sont pas qualifiés pour les JO en foot?
Mais ils sont nuls.
Bon. C'était même
ça veut dire que vous avez une jeune génération un peu moins flamboyante que les précédentes.
C'est-à-dire qu'on est très concentré sur des vrais objectifs comme l'euro et pas les petites compétitions parasites comme les Jeux Olympiques.
Qu'est-ce qu'on va rire quand vous allez être éliminé au premier tour de l'euro ?
La France est automatiquement qualifiée en tant que pays organisateur, mais on ne sait pas si
c'était difficile de se qualifier. Hein, vous confirmez, monsieur, le journaliste sportif.
Non, mais là, il est en train de gratter des places pour un spectacle. C'est scandaleux.
Merci beaucoup, Philippe Sansfourche. On a bien fait le match avec vous. Et on va chanter maintenant avec notre grand invité dans RTL. Bonsoir, Cali, comme promis. Il y a 20 ans.
Isabelle Choquet et Cyprien Sini. RTL, bonsoir. Julien Cellier, Isabelle Choquet et Cyprien Sini. RTL, bonsoir.
RTL, bonsoir. Votre deuxième heure maintenant qui débute vraiment avec autour de la table la fine équipe. Cyprien, Isabelle évidemment et votre serviteur quand il s'agit de musique. J'ai nommé Steven Bellery. Salut Steven.
Salut à tous.
Et tous ensemble, nous accueillons maintenant dans notre studio notre grand invité ce soir. C'est le chanteur Cali. Bonsoir Cali.
Bonsoir.
On va fêter avec vous la sortie de votre nouvel album 20 ans d'amour. Parfait.
Je suis pendu sous vos fenêtres, au pied de l'arbre. Peut-être demain la petite fleur qui va naître vous racontera mon chagrin. C'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur.
J'ai envie de vous dire joyeux anniversaire, Cali, parce qu'on fête vos 20 ans de carrière, les 20 ans de ce tout premier album, de l'étincelle, l'amour parfait. Vous revisitez toutes les chansons de l'album, mais en duo et au piano, et à la fois la nouveauté des duos, la nouveauté des arrangements. Sacré casting, Francis Cabrel qu'on entend ici, mais aussi Adamo, Benabar, Calogero, Stéphane Echer, Bernard Lavilliers, Pascal Obispo, ou encore votre copine du Sud, Olivia Ruiz.
Et je précise que vous allez chanter pour nous dans ce studio un autre tube dans quelques minutes. Elle m'a dit, Cali, vous dites que vous devez tout à ce disque, c'est une formule singulière.
Oui, je le dois. En tout cas, je lui dois le fait d'être parti sur la route, de voir le monde et de croiser l'amour et les concerts tout le temps, parce que j'étais enfant de la Catalogne et il m'est arrivé une histoire de comme tout le monde, une histoire de cœur. J'étais triste et pour me défendre, pour me sauver la vie, pour me réparer, j'ai écrit des chansons. Et il se trouve que tout le monde vit des ruptures, donc les gens se sont appropriés ces chansons-là en fait. Et donc j'ai eu la chance de vendre beaucoup de disques et de pouvoir partir sur la route. Voilà. Je l'appelle mon album Trèfle à quatre feuilles. Donc je voulais, s'il y en a un que je dois célébrer, c'est celui-ci, ouais.
Il a eu une étincelle atypique ce disque, parce que vous aviez un peu plus de 30 ans quand vous avez commencé à écrire les chansons. Il est sorti, vous en aviez 35, ce qui est rarissime dans l'industrie du disque. Comment est-ce que vous expliquez que vos chansons à un moment touchent les gens alors que vous n'êtes pas vraiment à la carte à ce moment-là de votre vie, vous?
Du tout, je fais des balles de village et j'adore ça. Et moi, si j'avais pu continuer mes balles, voilà. Non, c'est encore une fois, je pense que on parle de planètes qui s'alignent. C'est-à-dire que oui, il y a le texte, les ruptures, mais il y a une rencontre essentielle avec Daniel Presley, qui est le réalisateur du premier album. C'est le cousin d'Elvis, d'ailleurs.
Non.
Et, si, c'était le cousin. Et puis, c'était étonnant parce que je ne savais même pas que je pouvais travailler avec un réalisateur. Et il a vu, moi, je voulais travailler avec une équipe de chez moi à Perpignan, des jeunes musiciens, enfin, qui étaient avec moi. Et on n'était pas prêts, en fait. J'avais mes chansons qui étaient là. Il est venu travailler chez nous pendant longtemps, nous ficeler les choses avec nous. Et puis, on est parti en studio à côté de Brighton, dans le sud de l'Angleterre. C'était un rêve total. Et à partir de là, il y a une chanson qui est arrivée et la maison de disques m'a dit, on m'a dit tu vendras 3000 disques et ça va être super. Et puis,
j'en ai à 600. Voilà.
Moi, c'est arrivé, c'est tombé sur moi, c'était un ouragan total. Et si ça c'était, je pensais que ça s'arrêterait là. J'étais heureux, je m'étais dit tiens c'est bien, il y a tout ça.
Vous ne rêviez pas de plus à ce moment-là? Vous ne rêviez pas d'être connu, célèbre,
Non, c'est la différence entre la réussite et le succès, quoi. La réussite, c'est on fait un gâteau au citron et on met exactement les ingrédients qu'on veut. C'est ce qu'on mettait avec Tom Scarlett. Et quand on le goûtait, il était parfait pour nous, quoi. Et ça nous suffisait. Le succès, c'est, il faut que ça plaise aux gens après, ouais. Et moi, le fait que j'ai une vie avant me permet d'avoir ce recul-là, de me dire, je suis très admiratif des mômes, des jeunes qui arrivent à 20 ans aujourd'hui et qui ont du succès, parce que je vois la pression, je vois ce qui se passe et je me dis, mais à 20 ans, moi, j'étais perdu, ouais.
On écrit des chansons avec son histoire. D'ailleurs, c'est quand le bonheur, qui était le premier extrait de cet album, qui est devenu culte. C'est une chanson triste, on l'a entendu. Votre chérie vivait à Besançon, loin de vous. Elle vous avait écrit cette formule sur une carte postale, c'est vrai ça?
Oui, j'étais en train d'écrire mes chansons tristes, comme d'habitude. Elle était à l'autre bout du monde, hein. Moi c'est Perpignan, elle était à Besançon. Et donc quand je
reçois... c'est dur Besançon en plus. Hein.
Mais en tout cas...
C'est moins beau qu'à Perpignan.
Ouais. Non, je confirme. Hein. Mais c'est beau Besançon. Mais le facteur qui arrive et qui frappe à ma porte et qui me dit voilà. Et j'avais ces couplets qui étaient là et j'ai collé la carte postale et c'est devenu cette chanson-là. Ouais. C'est une vraie histoire.
Et vous vous souvenez de la toute première fois où vous vous êtes entendu à la radio avec cette chanson? C'est quand le bonheur, c'était avec elle, je crois.
Ouais. C'était avec elle. On m'avait dit sur ça va passer à la radio entre Sting et les Cranberries à 20h.
Pas mal.
C'est chic ça.
Ouais. Oh. Et puis le journaliste a dit, il nous vient de Perpignan, il s'appelle Cali. Et on arrêtait la voiture à 20h et on sautait comme des fous et on dansait, on s'embrassait et on s'est rendu compte qu'on était garé devant un cimetière. Ouais. Ça partait bien l'histoire.
Et d'ailleurs, pourquoi Cali, qui était un diminutif de votre nom de famille?
Ah, ça a bien arrangé, je me souviens la maison de disques, ça, parce que je m'appelle Cali Churi. Et je démarchais sous le nom, mon nom, quoi, Cali Churi. Mais dans mon village, on m'appelle le petit Cali depuis toujours. Et on va dire à quelques jours de choisir, de se dire le disque va partir, quoi. Je leur dis, mais si vous voulez, moi on m'appelle Cali. Ah bah ouais, on veut bien. Ouais.
Vous avez rencontré des artistes du monde entier, vous avez voyagé partout, mais vous retournez toujours à Vernay-les-Bains, votre village catalan au pied du Canigou. Pourquoi? Vous en avez besoin de retourner aux sources comme ça régulièrement?
Ouais, c'est mon enfance. Hein. Je vais à Vernay-les-Bains, j'habite juste à côté aujourd'hui parce que je vais à l'endroit, je vais faire des pèlerinages. Je vais là où j'ai fait l'amour la première fois. Je vais dans la petite école de ma maman et j'ai accès à la maison où on habitait. Alors je me mets accroupi et je traverse la maison du haut de mes 6 ans. Et toutes ces choses-là me régénèrent. Et puis mes amis d'enfance qui sont toujours là et qui me plaignent, parce que ça c'est dingue. La chance que j'ai d'aller sur la route, ils me disent « Oh Bruno, t'as pas de bol quand même, t'es toujours sur la route quoi. »
Ouais. Cali, on entend derrière nous les choses défendues.
Ouais.
Revisité en duo avec Pascal Obispo.
Qui nous promettait ces choses.
C'est dû, on va en discuter dans une seconde. Vous restez avec nous, 20 ans d'amour parfait dans les bacs et vous chanterez pour nous également dans ce studio dans un instant. Ne bougez pas.
Pour faire les choses défendues.
RTL, bonsoir.
RTL, bonsoir.
Julien Cellier,
Isabelle Choquet et Cyprien Signy.
La deuxième heure toujours de RTL, bonsoir. Notre grand invité ce soir, c'est Cali qui chantera pour vous, chers auditeurs, ses cadeaux. Dans quelques minutes, on célèbre ensemble la sortie de son album 20 ans d'amour parfait.
Pensons à l'avenir, bébé. Pensons à l'avenir. Pensons à l'avenir, bébé.
Pensons à l'avenir, en duo avec Stéphane Echer qui était à votre place il y a quelques semaines dans ce studio. 20 ans après, vous revisitez les titres de votre album mythique Cali en duo avec uniquement des pointures. Pourquoi des duos? Comment l'idée des duos est venue d'ailleurs?
Je voulais, quand je les avais en poster dans ma chambre pour la plupart, quoi, ils m'ont pas menti, ils m'ont dit demain il faut aller à l'école, on va te tenir la main. Leur chanson me était là au fond de moi. On m'a dit fais attention quand tu vas croiser tes héros, tu peux te tromper, être déçu. Et j'ai pas été déçu. Pour moi, la vie, ce sont des duos, c'est des partages. Si Jacques Higelin était là, je lui aurais posé la question, viens chanter avec moi. Bachung pareil, Daniel Darc pareil. L'idée, c'est de ces gens-là ont des hauts, des bas, et c'est pas leur côté lisse qui m'intéresse. En tout cas, ce qu'on peut voir dans les parfois. C'est leur vie de ils touchent les ténèbres et puis parfois ils caressent le soleil et en tout cas ils ont toujours cette flamme là. Moi, Salvatore Adamo me prend la main, moi il m'amène, il chante avec moi. La chanson c'est toujours le matin, mais Salvatore est au-delà du duo. Il m'a souvent pris dans les bras pour me dire fais attention Bruno parce qu'il y a la famille aussi. On est beaucoup sur la route, mais il faut faire attention à sa famille. Ce n'est pas des conseils de stratégie musicale, c'est juste de la fraternité.
Et des
grands frères. Donc je voulais que ce disque-là soit avec eux, vraiment. Ouais.
20 ans d'amour parfait, est-ce que vous avez eu peur de vous brûler les ailes parfois dans ces tournées folles, dans le succès?
J'ai toujours voulu me brûler les ailes, en fait. Je veux que ça aille vite parce que le cycle de la vie, on vit, on meurt. J'ai toujours pris cette vie avec comme si je me taillais les veines et que je buvais une coupe de champagne à côté, quoi. Voilà, c'était ça. Écrire des livres, je le fais. mais j'étais pas prévu pour faire, enfin c'était pas prévu, jouer dans des petits films ou alors du faire du théâtre, et mais surtout pas de stratégie et surtout pas de carrière. Carrière pour moi, ça veut dire c'est un cimetière, la carrière.
Donc l'amour parfait, faut le brûler un peu parfois.
Ouais, faut le brûler, mais c'est beau parce que le brûler en concert aujourd'hui, c'est avec des gens qui connaissent les paroles par cœur. Et ça me touche. J'ai vu une dame l'autre jour qui avait sa fille qui avait 20 ans, qui me dépasse en taille, et elle m'a montré une photo d'il y a 20 ans, et sa fille était dans son ventre. Et ça, ouais, c'est le temps court comme un élan, quoi. Faut faire gaffe.
Tous ces copains du disque, vous les avez appelés vous-même directement. Il n'y a pas de stratégie de maison de disque là non plus. Non. C'est des coups de fil et c'est des copains.
C'est moi qui les appelais comme si je les avais convoqués à mon anniversaire, quoi. C'est ça l'idée. Et c'était Stéphane. On parlait de le magnifique Stéphane, quoi. Parce qu'il y a 20
Stéphane
ans,
est cher.
Stéphane Escher, il y a 20 ans, me dit j'adore ta chanson, Pensons l'avenir. Et j'ai l'appel, je dis écoute, tu vas chanter avec moi, Pensons l'avenir. Ok, super. Il pouvait pas être avec moi en studio. Il est toujours sur la route, Stéphane. C'est le troubadour absolu.
Il a pas de maison.
Alors il m'a dit là où je serai, je te ferai quelque chose. Et j'étais dans la rue et je reçois sur mon téléphone une version de Stéphane, quoi. Sa voix. Et j'ai pleuré. Et les gens me regardaient pleurer. Et c'était... J'écoutais Stéphane, quoi. J'étais bouleversé.
Ouais. Alors, justement, vous êtes entouré du gratin. On va jouer un petit jeu.
Ah.
Un petit jeu des duos.
J'espère
musique
que je ne vous ai pas trop plombé. Hein,
ah ben non, au contraire. Ça tombe très bien. Parmi tous les artistes qui vous ont accompagné sur l'album, voilà, qui est le plus drôle en studio?
Benabar.
Le plus sérieux? Plus pro?
Oh là là, ils sont... Pro, ils sont tous pros. Alors on va trouver notre le plus
ou le moins marrant.
Non, le plus Peter Kingsbury. On est allé chercher loin. Ouais, on a beaucoup travaillé. Ouais.
Le plus... de Cockrobin.
Cockrobin, ouais.
Le plus créatif.
Oh là, Steve Naive, qui est le pianiste.
Le pianiste, ouais. Avec qui vous allez jouer tout à l'heure.
Voilà.
Celle ou celui avec lequel vous avez, pour lequel vous avez le plus d'admiration.
Mais vous êtes horrible.
Ah ouais,
vous est-ce que vous voulez que je choisisse
plusieurs.
Est-ce que vous voulez que je choisisse mon enfant parmi mes quatre
non.
enfants le plus d'admiration.
Ouais.
Ah, pour plein de raisons différentes. Non, je dirais. Allez, je vais dire Adamo parce que je vais dire Adamo par rapport à. Je sais ce que c'est qu'une tournée en France, au Québec, en Belgique et en
Il
Suisse.
Va dans le monde entier.
Et lui, c'est le monde entier. Donc je dirais Adamo. Ouais.
Et celui ou celle dont vous êtes le plus proche.
Oh là là, Olivia, Benabar, Adamo,
tous. Allez, pour la dernière, on les met.
Ma
tous.
Fille, non mais non, parce qu'il y a ma fille. Non, ah, non bah, ça va pas, elle va me tuer.
Coco, violoncelle.
Coco, ouais, violoncelle. Et puis elle est venue faire. Elle a chanté il y a 10 ans avec moi sur une chanson qui s'appelle Coco, d'ailleurs. Et elle fait la, 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 avec une voix cassée de 8 ans que j'adore. Et je lui dis, tu ferais pas ce cadeau à papa de revenir. Et me dire, bah, elle est violoncelliste et pianiste. Alors. C'est sérieux, quoi. Et elle m'a dit, ok, je viens chanter avec toi, je suis pas chanteuse. Et elle m'a fait ce cadeau d'amour. Donc je dirais Coco. Voilà.
Et Coco, elle viendra dans le grand studio RTL dans quelques jours pour chanter avec vous, d'ailleurs. Mmh. Sur ce disque, il y a un nom, on l'a cité plusieurs fois depuis le début de cette émission, c'est Steve Naive, qui vous accompagne sur cette tournée.
C'est parce qu'il a bossé avec Sting, Bowie, Lou Reed, McCartney, Springsteen, Bono, c'est une pointure de
dingue. C'est le pianiste, quoi.
Ouais, mais c'est surtout, il est tellement humble, hein, je veux dire. Une fois, on était au Luxembourg, il y avait les rappels, il me dit Bruno, je voudrais faire une chanson pour mon ami au rappel. Je dis oui, on fait ce que tu veux. Il est à New York, on va lui envoyer la chanson, on l'enregistre et il l'aura demain pour son anniversaire, quoi. Je dis oui, mais on fait quoi? Bon, on pourrait faire sa chanson. Je dis mais qui c'est? Il me dit Lou Reed. Ouais. Moi j'étais là, waouh. Et on a...
Mais... Et vous avez joué quoi?
On a fait Perfect Day.
Ah, ouais. C'est magnifique.
Ouais, c'était dingue.
Est-ce que cet album, vous allez le jouer sur scène avec tous vos copains ou est-ce que c'est trop compliqué de les réunir?
Parce que là, c'est limite les enfoirés, hein, votre truc. Vu toutes les stars qu'il y a.
Non, le fric, c'est moi qui le prends.
Ah ouais, mais justement. C'est là que ça va être dur de les réunir.
Non, on a fait une date parisienne. C'est compliqué, voilà, chacun. Sur la date parisienne, il y a Bruno qui était là, Benabar qui est venu. Mais la porte est ouverte, évidemment. Mais on va faire un studio RTL où il y a mon ami, ben voilà, c'est Charlélie. C'est comme pareil, on parlait de Charlélie Couture, le grand frère. Il y a Calogero qui sera là. Et s'ils veulent venir, c'est les bienvenus. Ouais.
On entend Dolorosa en duo avec Olivia Ruiz derrière nous.
Vos yeux s'embrasseront, Dolorosa.
Nos yeux s'embrasseront.
On va vous laisser vous installer tranquillement, Cali, parce que vous allez chanter pour nous en live dans un instant ce tube Elle m'a dit. C'est un duo avec Calogero d'ailleurs sur l'album. Cali, vous êtes notre grand invité. Juste avant de vous écouter, le temps que vous preniez place, on va aller faire un petit crochet en cuisine, la recette du jour. C'est avec vous, Angèle Ferromac, pour la guinguette d'Angèle. Salut Angèle.
Bonsoir tout le monde.
Qu'est-ce qu'on déguste aujourd'hui ?
Ce soir, une recette de petites boules du Moyen-Orient, délicieuse, savoureuse.
Falafel.
Ah, voilà, bravo.
Tac, allez, falafel. Un point pour Célia, à tout de suite.
RTL, bonsoir.
Julien Célier, Isabelle Choquet et Cyprien Sini.
RTL, bonsoir.
RTL, bonsoir, la deuxième heure qui continue. On est en train de vous préparer un live aux petits oignons. Notre grand invité Cali et son pianiste sont en train de s'installer. Un joli cadeau se prépare pour vous les auditeurs. En attendant, on passe en cuisine.
RTL.
Les cornichons, de la moutarde, du pain d'épeur, aux petits oignons, des cornichons.
Bonsoir.
Allez, RTL vous régale comme chaque soir avec la guinguette d'Angèle. Si vous êtes francilien de passage à Paris, courez au restaurant du même nom, rue Coquillère, Paris 1er. Allez cliquer sur le compte Instagram la guinguette d'Angèle pour retrouver les recettes du soir. Et ce soir, eh bien, on s'évade. On part au proche, au Moyen-Orient. On va déguster des falafels grâce à vous, chère Angèle. C'est compliqué les falafels à réaliser ?
C'est pas compliqué. Moi, j'aime bien les faire au four, mais... souvent, on les mange frits, ce qui est meilleur au goût, mais moins bon pour la santé.
Est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs déjà ce que c'est, le
Alors,
falafel ?
Les falafels, c'est très simple. C'est, vous savez, ces petites boules qu'on retrouve notamment en Égypte, qui se dégustent absolument de mille façons différentes, avec une sauce au yaourt, dans des petits pains, dans des sandwichs.
Ce sont des céréales, c'est ça ?
Mais il y a quoi dedans ?
En fait, c'est à base de pois chiches. C'est la base du falafel, c'est le pois chiche.
D'accord.
Et c'est vraiment très très bon. Donc la paternité du falafel est revendiquée par plusieurs pays.
Oui, c'est
pays.
Comme le houmous. C'est voilà, géopolitiquement c'est compliqué.
Comme le taboulé,
effectivement.
Aussi. Exactement.
Donc c'est une boulette de pois chiche.
C'est une boulette de pois chiche, tout simplement. On peut mettre d'ailleurs un peu ce qu'on veut dedans. Là, je vous donne ma recette que j'aime bien faire. Il y a plein de façons
comme
de faire.
Comme la fricadelle.
Et voilà.
Dans un autre style.
Un truc on peut mettre tout ce qu'on veut dedans.
Un peu moins light.
Moins light. Donc pour les pois chiches dans les falafels, on peut les prendre crus, on les fera tremper, ou les acheter déjà en conserve, déjà cuit. C'est le plus simple. Donc il vous faudra en tout cas 400 grammes de pois chiches, ou tremper toute la nuit. Vous allez voir, ils vont gonfler, même pré-germer parfois, ou tout simplement déjà cuit, rincé et goûté. Vous aurez besoin aussi d'un oignon. Moi, je mets un petit oignon haché, de 2 gousses d'ail, de 2 cuillères à soupe de persil frais haché. Dans les falafels, d'ailleurs, partout, je garde la tige. Pas la peine de l'enlever, c'est des fibres en plus, ça nous fait du bien.
Alex.
Je note.
Des fibres. Non, mais c'est pour les fibres.
Quand on a dit boulette, j'ai eu un rêve. Ouais. J'ai vu arriver.
Une boulette de viande ?
La boulette, mais non.
Et non, non, non. Donc on en était au persil.
Oui, pardon, madame. Voilà. Pardon, madame.
On peut aussi mettre de la coriandre pour rester dans le vert, dans les herbes aromatiques
foutu
pleines de chlorophylle.
Mettons un peu de coriandre.
Et puis, parce qu'on est un peu coquinou, on va mettre du cumin, de la coriandre moulue, du sel, du poivre et même du bicarbonate de soude. C'est vraiment le secret pour qu'il soit croquant.
Du bicarbonate ?
On peut mettre du bicarbonate.
Moi, je me lave les dents avec le bicarbonate de soude.
Moi aussi, c'est d'ailleurs une très bonne chose. On peut laver ses toilettes.
Je me brosse
aussi.
Les dents, d'ailleurs.
Et pourquoi ?
Ça va apporter du croquant au falafel.
Mais okay, ça se mange,
d'accord. Ouais, d'accord.
Oui, bien sûr, oui, okay. ça s'utilise dans la pâtisserie. On aura aussi besoin de 2 cuillères à soupe de farine, plus si nécessaire, encore une fois, et un peu d'huile d'olive pour badigeonner, parce qu'on est un peu fou. Donc ensuite, on préchauffe le four. Donc on commence toujours ce genre de recette par préchauffer le four. Ça nous fait gagner un temps fou, parce que quand on a fini la recette, on enfourne direct, on n'a pas besoin d'attendre. Donc on préchauffe le four à 200 degrés, c'est bien chaud. On recouvre une plaque de cuisson de papier sulfurisé. Et là, on va huiler légèrement notre papier. Et on va commencer le mix du falafel. Donc tout simplement dans un robot ou dans un mixeur, on va combiner pois chiches, oignons, ail, persil, coriandre fraîche, cumin,
la totale,
voilà,
quoi.
Coriandre moulue, le poivre, le bicarbonate, tout. On mixe jusqu'à obtenir une texture homogène mais pas trop lisse. On aime bien qu'il y ait des petits morceaux dans les falafels quand même. Et ensuite, tout simplement, on va faire des petites boules. Donc là, avec nos mains, moi j'aime bien mouiller les mains avant, on forme des petites boules de falafel et on le met sur notre plaque de papier sulfurisé.
Et on enfourne.
Et on enfourne tout simplement à peu près une demi-heure jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés, bien croustillants.
Et vous les mangez avec quoi les falafels ?
Moi j'adore les manger avec une sauce avec de la tahine. Vous savez ?
La purée de sésame.
La purée de sésame. Je mélange yaourt, purée de sésame, jus de citron, un peu d'huile d'olive, de sel, et c'est délicieux, avec une salade. Non, c'est bon, vraiment.
Ah, j'adore les falafels, ne me regardez pas comme ça.
Moi, je les gomme à l'apéro, en fait.
Alors, vrai, vous êtes falafel, vous ?
Bah, ça m'arrive quand il y en a, quoi.
Ah, moi, je vous imagine.
Mais, plus, je vais pas faire la démarche, mais souvent, je suis invité chez les gens où il y a des falafels.
Et alors là, surtout à l'apéro. Quand on les fait pour l'apéro, c'est de faire des toutes petites boules. Oui. Ça va être plus croquant et beaucoup plus pratique à picorer.
Bon, on s'est évadé, en tout cas, culinairement parlant avec vous ce soir, chère Angèle. Merci beaucoup. La recette à retrouver, évidemment, sur La Guinguette d'Angèle, le compte Instagram et sur RTL.fr. Merci Angèle.
Merci beaucoup.
Simple, basique.
Comme promis maintenant, ce cadeau pour vous, les auditeurs, notre grand invité Cali est toujours avec nous. On fête avec lui son nouvel album, des duos formidables pour fêter cet anniversaire. 20 ans d'amour parfait. Cali, vous allez nous offrir maintenant en studio ce tube, Elle m'a dit, avec Steve Naïve à vos côtés au piano. C'est à vous, c'est quand vous voulez, Cali et Steve.
Je crois que je ne t'aime plus, elle m'a dit ça hier, ça claquait dans l'air comme un coup de revolver. Je crois que je ne t'aime plus, elle a jeté sa hier entre le fromage, le dessert, comme mon cadavre à la mer. Je crois que je ne t'aime plus, ta peau est du papier de verre, sous mes doigts, je te regarde et je pleure juste pour rien. Comme ça, sans raison je pleure, à gros bruyant je pleure, comme devant un oignon je pleure, arrêtons là, la la la, la 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 la, elle m'a dit, la la la, la 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 la, elle m'a dit, je crois que je ne t'aime plus, relève-toi, relève-toi. Ne te mouche pas dans ma robe, pas cette fois, relave-toi. Tu n'as plus d'odeur, tes lèvres sont le marbre de la tombe de notre amour. Elle m'a dit ça, son sang était froid. Quand je fais l'amour avec toi, je pense à lui. Quand je fais l'amour avec lui, je ne pense plus à toi. La la la, la 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 la. Elle m'a dit la la la, la la. Je crois que je ne t'aime plus, elle m'a dit ça hier, ça pétait dans l'air comme un vieux coup de tonnerre. Je crois que je ne t'aime plus. Je te regarde, je ne vois rien, tes pas ne laissent plus de traces à côté des miens. Je ne t'en veux pas, je ne t'en veux plus. Je n'ai juste plus d'incendie au fond du ventre, c'est comme ça. La la la, la 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 la. Elle m'a dit la la la, la 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 la. Elle m'a dit. Alors j'ai éteint la télé, je n'ai pas trouvé le courage par la fenêtre de me jeter. Mourir d'amour n'est plus de mon âge.
Merci, bravo. Merci mille fois Cali pour ce si délicat moment de radio. Merci Steve Naïve au piano. Merci à tous les deux pour ce live dans le studio de RTL. Bonsoir. Elle m'a dit, c'est en duo sur l'album avec Calogero. On était ravis de vous recevoir aujourd'hui avec toute la bande pour cet album 20 ans d'amour parfait. 14 duos avec Adamo, Cabrel, Benabar, Escher, Lavillier, Obispo, Olivia Ruiz. Et j'en passe, c'est dans les bacs. Merci Cali d'avoir été notre grand invité. Merci pour ce moment avec nous.
RTL, bonsoir.
une seconde de pause, enfin un petit peu plus, et puis ensuite ce sera le grand quiz de RTL. Bonsoir. Et ce soir, on a un cadeau absolument magnifique à vous faire gagner, les auditeurs. C'est toujours un plaisir de jouer avec vous, mais quand on peut vous gâter de cette façon, ça l'est encore plus. On vous emmène au parc Astérix. Voilà, avec la petite musique qui va bien.
Sonore.
Voilà, un week-end au parc Astérix, et pas pour une, pas pour deux, pas pour trois, mais pour 4 personnes, donc restez avec nous.
En plus, on joue juste après ça. C'est pas forcément une famille, ça peut être juste avec des copains.
Oh là là,
ouais, c'est, pas
c'est encore mieux si on n'emmène pas les enfants, c'est ça. Allez, à tout de suite.
C'est rigolo.
Julien Cellier, Isabelle Choquet et Cyprien Sini.
RTL, bonsoir.
RTL, bonsoir.
Julien Cellier,
Isabelle Choquet et Cyprien Sini.
Le grand quiz.
Allez, bonne fin de journée. RTL, bonsoir à votre service. Pendant quelques minutes encore, on s'occupe de vous chaque soir, vous le savez, jusqu'à 20h. Et chaque soir, on termine en beauté, on peut le dire, cette émission, avec cette tradition, le grand quiz de RTL, bonsoir. Et à la clé, de très 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 jolis cadeaux. Et pour vous, les auditeurs. Et celui de ce soir, il est quand même assez magnifique.
Ah, il est dans mes favoris. Vous avez reconnu la musique ? Le parc Astérix.
Non, pas
joli. Messieurs, dames, deux jours pour quatre personnes. Ça peut même être quatre amis. Hein, avec hôtel, petit déjeuner, resto et toutes les attractions, dont les nouveautés comme la tour de numéro 10. Un séjour inoubliable chez le Gaulois le plus célèbre du monde.
Pourquoi ça vous ravit tant, le parc Astérix ? Vous êtes déjà allé au parc Astérix ?
Mais non, jamais. C'est super.
Et mon fils arrête pas de me dire que c'est extraordinaire.
Mais oui.
C'est vrai ? Partout à 10. Le maître du jeu, c'est donc vous. Oui. Cyprien, est-ce que vous pouvez nous rappeler les règles ?
Tout à fait. 6 questions, 4 bonnes réponses et c'est dans la poche. Tout a été dit depuis 18h. Et puis bon, le quiz n'est pas très dur, c'est moi qui l'ai fait. Et comme on est vraiment sympa, en plus, vous pouvez demander 3 jokers avec notamment Isabelle et Julien.
Et on va accueillir un auditeur ou une auditrice.
C'est un auditeur, c'est Philippe qui nous appelle. Bonsoir Philippe.
Oui, bonsoir.
Bonsoir Philippe, bienvenue sur RTL.
Vous nous appelez d'où, Philippe ?
De Créteil.
Créteil, 94.
Exactement.
Le stade Dominique Duvauchel.
Oui, pas loin. Ouais.
Et c'est un stade où, quand on commente les matchs, comme ça a été votre cas une époque,
oui, j'ai commenté,
on a froid parce qu'il y a du vent.
Ouais, exactement.
Duvauchel.
C'est possible. Je sais que les filles sont venues jouer il y a 2 ans contre la Chine, les filles françaises, les bleues.
Ah oui.
Mais voilà. Non, il y a souvent des beaux matchs.
Bah oui, effectivement.
Faut savoir, Philippe, que les garçons se repèrent exclusivement avec les stades France. Et moi avec les boulangeries, chacun son truc.
Il y en a une pas très loin du stade qui est pas mauvaise.
Ah, bah voilà.
Vous faites quoi dans la vie, Philippe ?
Je suis fonctionnaire au ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur à Paris.
D'accord. Est-ce que vous avez envie de partir au parc Astérix ? Je ne sais pas si vous connaissez le parc Astérix.
Ah, j'ai cru que vous alliez dire au Pakistan.
Ouais, non. Oui, on l'a cru.
Le Pakistan, c'est... Oui, c'est...
C'est plus compliqué.
Ça coûte plus cher que le parc Astérix.
Non, mais je serais très heureux d'aller au parc Astérix et puis d'y emmener... ma femme et mon petit garçon surtout quoi.
Alors on va essayer de vous envoyer au parc Astérix. A priori, quand Cyprien est derrière le quiz, il y a assez peu de chances de perdre.
Ça
mais bon,
aller, ouais.
On ne sait jamais. Comprendre en écoutant l'émission de temps en temps. Voilà.
Ce ne sont pas les quiz les plus compliqués. Allez, c'est parti, on y va. Première question, mon cher Philippe.
Philippe, vous avez déjà un pied au parc Astérix, hein, je vous le dis. Alors, à 19h10, dans les dessous de l'info, on a parlé de l'équipe de France de foot pour les Jeux Olympiques. Qui est le sélectionneur de cette équipe ?
3 propositions.
Est-ce que c'est Thierry Henry, Henri Michel ou Michel et Augustin ?
Thierry Henry.
Bien joué, Philippe.
Ça commence quand même sur les chapeaux de roue, cette histoire. Allez, deuxième question.
Notre grand invité de la deuxième heure était le chanteur Kali. Il vient à l'instant de nous interpréter un live de l'un de ses plus grands tubes. Elle m'a dit. Mais dans la chanson, elle lui a dit quoi, la dame ? Elle lui a dit « Je crois que je ne t'aime plus ». Elle lui a dit « Passe-moi le sel » ou elle lui a dit « Je crois que j'ai oublié d'éteindre la lumière ».
Je crois que je ne t'aime plus.
Oh là là, bien joué.
Je crois que je ne t'aime plus. Elle m'a dit ça hier. Ça claquait dans l'air comme un coup de revolver. Je crois
que je bravo à Kali en tout cas. Hein. Ces textes sont super et c'est d'entour également.
Ouais, c'était un très joli live, un joli moment de radio. Son pianiste est absolument génial, Steve Naïve, effectivement. Troisième question, vous avez un pied et demi au parc Astérix, Philippe.
Merci.
Alors, à 18h40, notre invité pour tout comprendre nous a dévoilé quelques méthodes utilisées par les agents du fisc pour traquer les fraudeurs. Et notamment, quand vous dénoncez quelqu'un, vous pouvez recevoir un bonus. Ça marche pas à chaque fois, mais ça arrive. Mais quel bonus ? 100 euros et un Mars, exempté d'impôt pour 15 ans,
ou alors vous recevez jusqu'à 15% de la somme récupérée par les impôts chez le fraudeur.
Je pense que c'est la troisième solution, jusqu'à 15% de la somme. Voilà.
Bonne réponse, Philippe.
Très bon, Philippe, très bon.
Encore une bonne réponse, et le parc Astérix s'offre à vous.
Alors,
on y va.
Dans son info pour briller à 18h50, Isabelle nous a parlé du toit de l'immeuble mythique des Galeries Lafayette à Paris.
Oui.
Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire sur ce toit. C'est ce qu'Isa nous a raconté. Mais il s'est passé quoi ? Est-ce qu'un homme a réussi à poser un avion dessus ? Est-ce que Jean-Jacques Goldman y a donné un concert caché ? Ou est-ce que Jean-Claude Juncker a été vu en train de boire un mojito ?
Non, un homme a posé son avion dessus et le pauvre, quelques mois après, est mort dans un accident d'avion entre Paris et Rome.
Oh, merci,
c'est une excellente réponse. Quatre bonnes réponses sans aucun joker. Bravo Philippe, vous partez au parc Astérix et vous pouvez partir avec effectivement toute votre petite famille puisque c'est pour quatre personnes.
Eh ben, mon fils est à côté de moi, il est tout sourire là.
Il a quel âge votre fils ?
Il a 10 ans et demi.
Ah, il a quel... oui. Comment il s'appelle ?
Il s'appelle Léo.
Il veut nous parler, Léo, ou pas ?
Il veut parler, Léo ?
Allez, Léo, t'es content de partir au parc Astérix ?
Oui.
Il est fort, ton papa, hein ?
Oui.
Tu l'as aidé ?
Est-ce que t'écoutes RTL de temps en temps ?
Oui.
Parce qu'il faut qu'on rajeunisse notre audience. C'est ce que le chef, il dit. Cave-Rivière.
Ah, Cave-Rivière, il est rigolo. Hein.
Exactement. Léo, tu peux nous repasser ton papa ?
Oui.
Oui, je suis là, oui.
Voilà, bravo Philippe, on est ravis d'avoir pu vous gâter, d'avoir pu gâter Léo, surtout dans RTL, bonsoir. Vous allez pouvoir partir au parc Astérix avec toute la famille. Et comme vous avez réussi le grand chelem, comme on dit dans l'émission, le 4 à la suite, vous savez ce qui vous attend à la maison. Le mug RTL et la montre RTL arrivent. Bravo Philippe.
Eh ben, merci à toute l'équipe en tout cas, encore bravo à RTL et ben, pour tout ce que vous faites et ce que vous apportez à tous et de la joie, de la bonne humeur, de l'info et tout. Quoi.
Et même des cadeaux, effectivement. Merci cadeaux. Philippe.
Merci beaucoup Philippe.
On est ravis d'avoir pu passer un moment avec vous. Profitez du parc Astérix. On attend la carte postale avec un petit autographe de Léo. Merci Philippe. À très bientôt dans RTL, bonsoir. Merci à tous les auditeurs pour ces 2 heures avec toute la bande. Entre 18h et 20h, on s'occupe de vous, vous le savez, chaque soir. Donc on revient demain. Même heure, même endroit, on ne bouge pas. 18h, enfin là, on va quand même rentrer à la maison, faire
oui,
un petit
seul. Bien, là, ouais.
Et puis on revient demain matin pour préparer l'émission. On se retrouve demain, 18h, dans quelques secondes. Elle aussi, elle est là tous les soirs pour s'occuper de vous. C'est Flavie Flamand, c'est jour J sur RTL. On va parler des jeunes ce soir. Bonsoir Flavie.
Bonsoir à tous. Ce soir, on va s'intéresser aux plus jeunes que vous, figurez-vous. On l'appelle la génération Z. Elle nous fascine, elle nous irrite. Et parfois aussi, elle fait vaciller nos certitudes. Eh bien, on en parle avec nos invités ce soir. À tout de suite.
Plus jeune que nous, c'est donc possible. À tout de suite.
RTL.